Sur les ondes de l'Internet, vous écoutez le podcast 1000 de On a juste une vie. Alors, pendant que Gabriel est en train de jouer à Halo...
Encore?
Parce que ça a l'air qu'il change de jeu à chaque semaine. Nous, on est là et on vous dit bonjour pour cette 8e émission du podcast dont on a juste une vie.
Hey, 8 déjà.
Quoi?
J'ai dit 8 déjà, ça va vite.
Ça va vite, hein, quand on en fait un à chaque semaine. C'est cool. Avec moi ce soir, il y a des gens. Alors, de son screen name, dans le coin droit... Il est jaune et mou. C'est Banana Blob.
Allô.
Allô. Ouais, j'ai oublié de dire allô.
Moi aussi.
Dans le coin gauche, il ressemble à quelqu'un qui ressemble à Ashton Kutcher. C'est Gabriel.
Encore?
Je sais pas.
Ben, ça me tentait de dire ça. Il ressemble toujours. Là.
Et dans le coin d'en avant, il y a l'autre qui manque, c'est-à-dire Louis.
Oui.
Allô Louis.
Félicitations pour ta belle introduction.
Ben c'est parce que j'étais là, d'habitude c'est le coin gauche, le coin droit, puis là ben j'étais là comme...
Ben disons qu'on a un ring en forme de trio.
Toute introduction.
Bon, alors sur ces belles niaiseries, ce soir à l'émission, on parle de plein d'affaires comme d'habitude, c'est-à-dire de Jetpack!
Oui!
Avec Halo Reach, Gabriel, tu vas nous parler de Jetpack. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans Halo Reach?
Il y en a un peu. Il y a une couple de sections vraiment le fun.
Cool. Ensuite, on va dîner avec des dates.
Oui.
Ce qui, au dire de Blob, est pas très bon.
J'aime pas les dates, pantoute.
En parlant de dinner date avec Louis.
Pas beaucoup de jetpack dans cette patente-là. Mais.
Ok, y a pas de jetpack?
Non, mais il y en a peut-être des petits secrets cachés, des Easter eggs, mais j'en ai pas trouvé encore.
Est-ce que cela a un potentiel ludique douteux?
On va ensuite parler du retour des démos sur WiiWare. On va parler de plein d'autres nouvelles comme ça, comme aussi Super Meat Boy qui s'en vient sur PC bientôt. Et à la table ronde, on parle des critiques de jeux, des bonnes critiques puis des notes qu'ils leur donnent. À ce qui paraît, on a plein de choses à dire là-dessus.
En masse.
Et donc, on enchaîne tout de suite avec la première section, c'est-à-dire à quoi c'est qu'on joue, pour le dire dans un accent plus québécois. Non. Gabriel, Jetpack, t'as-tu d'autres choses à rajouter?
Une couple d'affaires, honnêtement.
Ouais?
Ouais.
Vas-y.
Faut que je dise, là, Halo Reach, c'est probablement le meilleur Halo. Et c'est okay. Un shooter vraiment solide.
C'est pour ça qu'ils l'ont sorti, hein?
Ben, parce que tu le compares, mettons, à ODST qui est sorti, ouais. Je sais pas trop combien
c'était
de temps.
C'était censé être le dernier, bien, hein? C'est pour ça qu'ils ont fait Reach après.
Ok. Ouais. Ben, je sais pas exactement. Au DST, c'était pas supposé être un expansion pack ou quelque chose.
Ouais, oh, peut-être.
Peut-être. Anyway, tu joues à Halo Reach, puis tu te rappelles qu'est-ce qui faisait que le premier Halo était comme si rafraîchissant. Mm-hmm. Et les mécaniques de shooter sont extrêmement solides. Le graphisme, il est beau. Les environnements sont détaillés. L'impression de tirer sur ces espèces de bébites-là, comment les environnements sont faits, des fois, t'as l'impression que les combats peuvent se passer de manière différente à chaque fois.
Ouais, parce que c'est l'AI est vraiment bon, à ce qui paraît, c'est ça?
Ouais, comme je dis, c'est assez solide, puis c'est aussi les environnements, la manière dont ils sont faits, ça donne des options.
C'est comme pas genre trop linéaire.
Ouais, ok.
Non, c'est ça, les environnements sont vraiment particuliers parce que sont relativement ouverts, sont faites avec comme des choke points, des places parce que t'es obligé de passer, puis des places ouvertes, puis des chemins pour aller comme vers la gauche, vers la droite, dans le milieu, en haut. Et puis avec les jetpacks aussi, tu peux aller à d'autres places que t'aurais pas pensé.
Tu peux passer par en haut.
Si on compare avec quelque chose comme Medal of Honor, c'est pas mal plus élastique.
Flexible.
Pas mal plus. Oh oui, c'est pas mal plus flexible, comme Blob il dit, et Medal of Honor n'arrive pas à l'achever de Halo Reach.
Puis comparé à Call of Duty, t'as-tu joué un petit peu?
J'ai pas vraiment encore joué à Black Ops, j'ai fait un peu le mode zombie pour voir si j'allais jouer avec, okay, à ça demain avec mes chums.
Bref, tu en reparleras une autre fois. On va rester avec Halo, là.
Et ouais, c'est ça, les environnements, comme je dis, ben, ils permettent d'affronter des affrontements de manière différente à chaque fois, et aussi les options d'armes et tu peux changer comme ton le jetpack, tu peux le remplacer par l'habilité de courir plus vite ou l'habilité de faire un armor lockdown, je sais pas trop quoi ça sert, ou tu peux comme personnaliser ton bonhomme.
Fait que donc, ça voudrait dire que ça serait un jeu qui serait quand même le fun de rejouer. C'est ça?
Ouais. De rejouer et de rejouer avec d'autres personnes aussi, parce que la campagne, tu peux le faire
en coop. Ouais.
T'as le mode Firefight aussi, que tu affrontes des vagues, vague après vague d'ennemis. Puis t'as le mode multijoueur aussi. C'est vraiment complet.
Okay, donc je pensais que c'était une imitation un petit peu des classes qu'on avait dans Team Fortress, mais en réalité, c'est plus que tu peux personnaliser ton personnage quand tu veux. C'est ça.
Je pense que ouais. Puis t'as des loadouts aussi.
OK.
Je sais pas si tu peux les modifier. Je sais que le mode Firefight, tu fais face à vague après vague d'ennemis. Tu peux modifier chaque vague dans un menu. Tu vas dans un menu, puis tu dis vague 1, 2, 3, du 7-1, tu peux tout faire ce que tu veux avec. Tu peux dire quel genre de monstre qu'il va avoir dedans, quel genre d'armes, puis comment qu'il va.
Donc tu peux créer ton propre genre, ton propre niveau.
Ton propre défi. Ouais.
Ça me rappelle comment Perfect Dark au 64 était complet avec ce genre d'options-là, mais que la console était pas capable de suivre. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de contenu, puis ça demandait tellement de performances techniques que c'était juste too much pour la console. Puis c'est comme si, je pense que Halo a comme fait ce que Perfect Dark essayait de faire à l'époque. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai perçu ça.
Je pense que c'est une comparaison valable parce que le mode Firefight, c'est comme te battre contre des bots, comme dans Perfect Dark et tout ça. Il y a aussi le fait que tout est dans Halo Reach.
Okay. Tout?
Tout de Halo. Non, tout de Halo.
Ah.
Tout le système.
Fait que, toutes les guns, tous les monstres, tous les véhicules, incluant des trucs nouveaux, je suppose. C'est une section de l'espace comme ton.
Fait que tous les bons souvenirs des anciens Halo sont dedans.
Mais c'est ça.
Ouais, ce qui fait aussi vraiment une grande variété d'ennemis à affronter et une grande variété de manières de les affronter aussi.
Parce que la semaine passée, tu nous disais genre que ODST, ça avait l'air plus comme il manquait des choses. Là, c'est vraiment genre, il y a tout ce que tu peux vouloir, il y a.
Si ODST, c'est un jeu incomplet, dans Halo Reach, il y a tout. T'es même là, le Kitchen Sink.
Tu dis que ça joue beaucoup sur le. Ça rappelle les souvenirs, les bons vieux souvenirs du premier, mais si quelqu'un comme moi a pas de souvenirs particulièrement affectifs de Halo, comment qu'on va y trouver notre compte?
Ouais, je pense que. Mis à part tout le l'aspect nostalgique. Et comme je dis, c'est un shooter qui est vraiment solide. Même si c'est Halo, c'est reconnu pour être générique, t'sais, Space Marines versus Aliens, c'est solide. Ça se joue bien et de manière différente.
Puis à propos de l'histoire, t'as-tu quelque chose à rajouter?
Ben, j'ai pas encore fini le jeu. Je suis rendu à l'avant-avant-dernière mission, je pense. Et c'est raconté avec la lourdeur de toutes les autres Halo.
Tu sais, les Halo, c'est comme la grosse musique symphonique, des trucs comme ça.
Sauf que là, c'est encore plus lourd parce que ça raconte l'histoire d'une défaite.
Ouais. Ça, j'ai entendu parler.
T'sais... Pour vrai?
Ouais. Halo
bref,
Reach.
C'est genre, ok.
Halo Reach, c'est une. C'est une colonie qu'ils ont perdue pendant la guerre.
Puis là, il raconte cette histoire-là.
Ouais. Toutes les
gens... Donc, à la fin du jeu, genre, tu perds?
Ben, je sais pas encore. Ben,
j'ai entendu quelque chose d'intéressant à propos de la fin, mais j'ai pas joué, fait que je peux pas en rajouter, mais apparemment qu'ils ont fait quelque chose de nice.
Ouais, c'est ça. Puis tu
parce qu'ils peuvent pas faire un jeu que tu perds à la fin, ça serait le monde...
Ben, dude, ça s'est fait.
Non, tu peux,
Oui, mais pas Halo.
Ça dépend. Ah, okay. Ben, non, c'est justement, pourquoi pas.
Mais si c'est le dernier.
C'est ça.
Mm-hmm. Ah.
C'est... t'es peut-être qu'il essaie de se légitimiser en racontant une histoire qui va comme à l'encontre des tropes de jeux
vidéo. Conventions,
ouais. Dans un jeu vidéo, tu avances, tu gagnes, mais là, en avançant, tu perds. C'est comme une espèce de petite contradiction. Tu peux peut-être venir toucher le joueur d'une manière différente, mm-hmm. parce que c'est pas mal raconté. C'est pas super intelligent, c'est pas super bien écrit, mais c'est fait avec comme amour.
Oh ouais,
les personnages que tu côtoies tout le long, tu fais partie d'une équipe de Spartans, des Spartes qui sont des soldats modifiés génétiquement. Ils meurent toutes.
Sauf toi.
C'est ça. C'est l'histoire d'une disparition, je comprends.
Puis wow. C'est vraiment particulier, puis j'ai hâte de le finir pour voir qu'est-ce qu'ils font avec ça.
Okay.
Parce que même si c'est un peu trop lourd, c'est pas mal raconté. C'est sûr que bon, c'est pas la meilleure affaire au monde. C'est quand même la bonté, la gloire des Marines, t'sais. Des soldats. C'est les soldats anglo-saxons, ok. Mm-hmm. C'est pas nécessairement la meilleure affaire au monde, là. Mais
moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que vu que c'était le dernier jeu de Bungie, parce que Bungie, là, ils ont dit, ok, ça c'est notre dernier Halo, on a fini. Ce sera sûrement pas le dernier Halo. Parce que Microsoft, ils vont sûrement en faire d'autres, là. Mais ça va être le dernier Halo fait par Bungie. Puis donc, ils ont vraiment mis le paquet. Puis toi, c'est ça que tu nous confirmes, là.
Ce que j'ai entendu aussi.
Mm-hmm. Ouais. Puis honnêtement, les gars, si j'avais acheté un Halo, j'achèterais Halo Reach. Puis je m'arrangerais
même
pas. Pour,
même si on n'avait pas joué aux autres?
Même si on n'a pas joué aux autres, tu t'achètes Halo Reach. Puis tu vas pouvoir faire l'histoire en coop avec tes amis. Tu vas pouvoir faire le mode Firefight avec tes amis. Seul, et tu vas pouvoir aller comme faire du multiplayer en LAN. Je sais pas s'il y a du LAN, mais je pense qu'il y a du LAN sur la même console ou sur internet avec tes amis ou pas. Il y a tout là-dedans pour te garder diverti.
Y a-tu un mode, tu sais, le mode coop, est-ce que tu peux y jouer genre à deux sur la même console?
Ouais, split screen.
Donc t'as pas besoin d'avoir le Xbox Live payant.
C'est ça.
Ça, j'avoue que c'est un bon point.
Il y a tout. C'est un jeu que j'achèterais pour jouer avec mes amis de temps à autre. Ça, c'est clair.
Moi, ça me donne envie de jouer, en tout cas. J'ai pas d'Xbox, là, mais ça me donnerait le goût au moins d'y donner une chance.
C'est comme un jeu de party. Si t'es tanné de jouer à Super Smash Bros., puis t'aimes ça les shooters, tu vas mettre Halo Reach, puis tu devrais être satisfait. D'après moi. Je suis vraiment surpris, honnêtement. Je m'attendais à de quoi de comme un peu plus haut que ODST, mais je suis quand même assez surpris qu'il y ait du contenu là-dedans.
Non, pas moi. Moi, je trouve que vous êtes un peu méchant avec Halo en général.
Ben, c'est Narf, là.
Ah oui, c'est ça. Hein. On rejette la faute tout
sur
le temps.
Sur les autres.
C'est les chiens tout le temps. Des jetpacks. C'est vraiment...
Non, mais je m'excuse, là, mais c'est parce que quand Halo Reach a été annoncé, tout l'Internet entier ne parlait que des jetpacks. C'était jetpack par-ci, puis jetpack par-là, puis ça n'en pouvait plus. Puis c'est comme, oh, des jetpacks, man, ça va être écœurant. Je veux dire, moi, je fais juste
les jetpacks,
répéter ce que j'entends.
Il y en a dans Killzone 3 qui sort en février. J'ai tellement hâte.
Ah, toi, tu vas pouvoir jouer. Tu vas pouvoir avoir tes jetpacks là, sur PlayStation.
Oui, j'aime bien mon Killzone, mais pas au point d'être un fanatique comme d'autres.
Puis tu vas puis sur une échelle de, mettons, 0 à 10, là, les jetpacks, ça t'énerve-tu au bout?
Ça me fait absolument rien, en fait.
Ah, mais c'est parce que t'as pas connu le bonheur et l'extase de conduire un jetpack. Ça a l'air que c'est vraiment ça.
Un jour.
Bah, de toute façon, t'en as pas besoin, là, dans un jeu comme, genre, Dinner Date.
Hein? Oui.
Dinner Date,
merci,
édition Seb. Jetpack.
Oui, eh bien, oui, cette semaine... J'ai joué à un jeu qui se rapproche de Halo sur deux points.
Vous avez fait quoi? Et pas les jetpacks.
Mais vraiment deux points. Non, ce n'est pas les jetpacks. Le premier, c'est que ça se joue à la première personne. Et le deuxième, c'est que c'est aussi l'histoire d'une défaite. Mais une défaite d'un autre genre.
Wow.
Et puis, à part de ça, ben, c'est vraiment un jeu complètement différent. Je parle de Dinner Date, qui est un jeu indépendant qui est sorti mercredi le 17 novembre. Et puis, qui prend littéralement 18 minutes à se jouer tout seul.
OK.
Puis quand je parle de se jouer tout seul, je parle littéralement de se dérouler de façon autonome, sans demander la quelconque implication du joueur. Sauf à deux ou trois points où ce qu'il faut se verser un verre de vin et puis verser. Et puis le boire. Donc,
Donc c'est un jeu où c'est plus comme un film, là. C'est ça que tu es en train de dire?
C'est vraiment plus comme un film. C'est ça qu'il a décidé de faire, celui-là, qui s'appelle Jeroen Stout, pour son premier jeu. Et puis c'est assez étonnant comme projet. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'une certaine manière? Ben, c'est qu'il nous place dans un rôle un peu inhabituel. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas aux commandes des actions du personnage, on n'est pas aux commandes de ses pensées, on est dans le rôle de son subconscient moteur. C'est-à-dire on commande les gestes, les petits gestes anodins du personnage, comme par exemple regarder l'horloge, se basculer sur sa chaise un peu, se frotter le menton, et puis on attend. On attend quoi? Oui.
Y a-t-il genre une option, un bouton, genre se gratter le menton?
Oui. Il y a un bouton, puis il y a aussi, une année, ça devient très très concret, il y a de l'action, on prend un bout de pain, on le sauce dans la sauce et on le mange. C'est pas mal aussi concret que ce jeu va.
Ben, je suis quand même assez impressionné, là, je veux dire.
Ok, mais
tu sauces ton morceau, là, come on.
Mécaniquement parlant, littéralement, on a des icônes sur l'écran qui correspondent à des touches. Et puis, c'est ça, on effectue des gestes et on attend. Et le temps passe et on écoute les... Et surtout, c'est là que ça devient un peu intéressant, on écoute les pensées du personnage qui attend son amoureuse et qui n'arrive pas et qui panique et qui pense à sa job et qui pense au fait d'être célibataire à 27 ans, au fait de ne pas sortir avec ses chums, de vouloir avoir plus de temps pour lire. Et puis donc, de ce côté-là, c'est intéressant. La présentation visuelle est bien faite, l'écriture, il y a un sens du détail dans les pensées du personnage. Puis
ça doit être très personnel, j'imagine.
Je sais pas à quel point l'auteur pense. J'ai lu une entrevue où ce qu'il raconte qu'il n'a jamais vécu une situation comme ça, mais j'imagine qu'il met un peu du sien. Puis ça passe bien parce que l'interprétation vocale est bien rendue.
Mais attends, c'est un jeu là. Tu nous parles d'un jeu.
C'est un jeu de la façon la plus la plus superficielle possible. Le seul impact que le joueur a sur l'action, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il voit, comment il meuble le temps qui est vide. Et puis je l'ai dit, le temps passe tout seul, le dialogue se déroule, c'est séparé en quatre chapitres. Donc il y a des ellipses entre les chapitres, donc au fil de la soirée où il boit plus de verre et puis il pense à d'autres choses. Mais c'est tout. À un moment donné, il se lève, va fumer une cigarette contre la fenêtre, puis c'est ça.
Puis est-ce que c'est toujours pareil? Genre, si tu rejoues une deuxième fois, ça va être la même chose?
C'est là que ça devient un peu douteux, parce que, comme tu viens de dire, ça reste exactement pareil de fois en fois, sauf lors des actions anodines. Puis on s'entend que c'est anodin, complètement. Ce qui, à mes yeux, est une opportunité manquée. Parce qu'on est dans un médium électronique. On n'est pas donc sur une bande enregistrée, c'est pas une bande magnétique qui se déroule ou quelque chose. Il y a un jeu vidéo, c'est une base de données, puis il y a moyen de mélanger un peu les données. Puis ce jeu-là, il fait pas ça. Je pense par exemple, il y avait eu un mod de Half-Life qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait Dear Esther, où ce qu'on se promenait et on écoutait les pensées d'un personnage. C'était assez similaire au point de vue du ton. Mais ce qu'il y avait d'intéressant avec ça, c'était que les pensées du personnage déroulaient dans un ordre assez ordonné, mais quand même semi-aléatoire par endroit. Il y avait quelque chose d'un peu dynamique dans la livraison du dialogue que celui-ci a pas. Et puis, à mon avis, il y a une opportunité manquée à cet égard-là. C'est comme s'il nous empêchait un peu d'explorer ce qu'il avait mis en place.
C'est parce que j'ai comme l'impression que tu nous parles comme juste d'une expérience, comme d'un film.
Ouais.
Interactif, pas vraiment d'un jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle significatif. Ce qui est particulier, c'est que il l'affirme au début, il l'assume, il nous le dit. Tu n'as tes décisions, ton input n'a pas d'impact sur les pensées et les actions du personnage. C'est comme si t'es assumé, honnête, mais en même temps, comme s'il manquait quelque chose. Donc,
Moi, ça me fait penser, là, tu sais, les les films expérimentaux, là, souvent, ça va être, tu sais, c'est comme, les films expérimentaux, bon, le concept général d'habitude, c'est qu'on prend tout ce qui est narratif, on tasse ça de côté, puis on fait un film juste pour faire un film qui a pas d'histoire. Là, c'est comme si on faisait un jeu, puis on tassait tout le jeu, puis on gardait juste comme l'histoire.
C'est vraiment exactement ça que ça fait.
Puis ça me fait penser, en fait, à ben des jeux comme... Ben, les jeux qu'on parle, genre les jeux super linéaires dont on parle, là, que, surtout que Gab nous parlait, genre Medal of Honor, puis la semaine passée, ODST.
Sauf que c'est encore plus
ODST, c'est pas linéaire.
OK, bon, peut-être pas ODST, mais genre...
Mais tu vois, c'est
Call of Duty, tu sais, Call of Duty, c'est super linéaire. L'histoire à l'avance, peu importe qu'est-ce que tu fais.
Ouais.
Puis genre... Moi, ça serait pas une espèce de métaphore de tout ça, genre que tu peux... Que le jeu... On est rendu à une époque où les jeux, c'est juste comme... Il y a une histoire, il y a du gameplay, puis les deux ont aucune influence les uns sur les autres.
Moi, personnellement, je considère pas qu'il y a une meilleure manière de concevoir un jeu. Je considère que faire un jeu qui a pratiquement pas d'interactivité, c'est tout à fait possible et légitime, et ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, c'est encore plus poussé que les autres, parce qu'on est dans une situation... Le scénario est une situation d'attente même. Puis,
donc c'est vraiment, c'est comme je disais, c'est vraiment quelque chose d'expérimental.
Oui.
C'est pas,
puis c'est,
on est loin de...
Le seul intérêt que ça a, ben, sans vouloir dire que c'est sans intérêt du tout, c'est quelque chose d'une expérience un peu plus intime, un peu plus, disons, analogue de l'anxiété que vit ce personnage-là. On y est très très proche, puis ça nous met dans un état d'écoute assez aiguisé, en fait, plus que si on était complètement passif, mais quand même pas beaucoup plus, tu sais.
Ah, ben j'avoue que ça peut être intéressant.
Le dernier...
Parce que les films expérimentaux, en tout cas dans mon cas, c'est tout le temps ça le problème, c'est qu'au bout d'à peu près 10 minutes, je commence à canter, puis
ben,
à
c'est ça, dans ce cas-là,
affaires.
Ça dure quand même pas 3 quarts d'heure, je l'ai dit, ça dure entre 15 et 20 minutes de déroulement autonome. Puis, mais là, le dernier problème que je veux mentionner avant de passer à autre chose, c'est le problème du prix et de la valeur qu'on a. Quand on paye pour. C'est pas généralement un problème que j'ai avec les choses. Généralement. Parce que généralement, mettons, je suis curieux de voir quelque chose, puis je suis prêt à payer ce qu'il faut, tu sais. Mais dans ce cas-là, il a fallu payer 10$, et si on l'achète maintenant, c'est rendu 12,50$, pour quelque chose qui dure moins de 20 minutes, et puis qui va rester pareil de fois en fois. Rendu là...
Ben, c'est comme si t'achetais un court-métrage sur DVD, mettons.
Ouais, mais il faut vraiment y tenir à son concept. Comme on paye plus pour le concept que pour ce qu'on obtient, en fait. Je veux comparer avec le dernier jeu qu'a sorti Tale of Tales, qui s'appelle Fatal, qui raconte l'espèce d'histoire de gens. C'est une mise en jeu d'un épisode biblique, en fait. Ils ont sorti ça pour 7$. C'est à peine plus interactif. Mais... Ils en ont quand même fait quelque chose d'un peu plus explorable. On navigue, on se promène d'endroit en endroit. C'est un peu plus long, c'est aussi bien produit et ça coûte moins cher.
Puis c'est Tale of Tales, c'est eux autres qui avaient fait The Graveyard?
Oui. Puis
OK, je vois le genre.
Fatal
là.
Ressemble un peu avec un petit peu plus de contenu.
Ouais, Graveyard, c'était très linéaire. Et c'est... Il y avait comme zéro...
Ouais. Et puis...
Ouais, mais t'avais l'option de bouger ton personnage comme tu voulais, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais je veux dire, on s'entend que c'était assez... qu'il se passait pas grand-chose.
Effectivement.
Mais c'était gratuit, par exemple.
C'est gratuit ou 5$ avec la possibilité de mourir. ce que j'ai payé.
Ce qu'on a gratuitement dans la vraie vie.
Exactement.
Ouais, parce qu'on en a juste une.
Oui.
Oh!
Donc, moi, j'ai l'impression... Je sais pas qu'est-ce que... Jeroen Stout avait exactement dans la tête quand il a sorti son jeu, quand il a pensé, quand il l'a mis en marché. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas tout à fait complètement réfléchi à son affaire. Je sais pas s'il s'est dit, bon, ben si je le mets plus cher...
Je vais viser un marché de gens snobs qui s'intéressent
au
contexte.
Un marché comme de vrais connaisseurs. Et donc, vu qu'il n'y a pas grand-chance que beaucoup de gens se pitchent mon affaire, au moins ceux que je vais vendre, ça va me rapporter un peu... En même temps, j'ai l'impression, vu qu'il a pas vraiment profité complètement des possibilités du médium, c'est comme si là aussi, il était pas tout à fait... C'est comme s'il y avait encore des croûtes à manger un peu. Puis, je vais suivre ce qu'il continue de faire. Je suis curieux, mais je pense que ça vaut pas nécessairement l'investissement que ça demande. Mais
ben, honnêtement, là, moi, je trouve que c'était plus intéressant de t'écouter parler, pis ça me donne pas envie d'y jouer. Genre, j'ai pas envie d'aller l'essayer puis de l'acheter.
Ouais.
Mais je suis content que t'en aies parlé, puis genre, pour moi, là, j'ai eu mon expérience là, en ce moment.
Oh, ouais, je comprends. Puis, je vais préfacer un peu notre sujet
tout à l'heure.
Je suis
sûr que c'est le genre
l'heure.
De jeu... Oui, vas-y.
Ouais, ben ça, je vais préfacer un peu notre sujet tout à l'heure en disant que ben le rôle d'un critique, c'est un peu de faire ça, d'être le goûteur un peu, puis de faire un peu des sacrifices. Dans mon cas, ben ça a été ça. Puis, ben, tant mieux si...
Moi, ce que je suis pas mal convaincu...
Ouais, vas-y.
Je suis pas mal convaincu que ce jeu-là, c'est le genre de jeu qu'on va se servir comme, peut-être, comme pierre angulaire, genre comme exemple dans les livres d'histoire.
Ce qui est plate, c'est quand un jeu sert vraiment juste d'exemple, puis que, comme tel, l'expérience est pas exactement satisfaisante. Ça, c'est un peu dommage, mais...
Ben, c'est un peu comme You Have to Burn the Rope, je reviens encore là-dessus, je le sais, là, mais c'était ça, là. C'était un jeu qui durait 30 secondes avec une toune de 2 minutes à la fin.
C'est ça.
C'était tout, là.
Pis l'affaire, c'est que ces exemples-là, ils sont encore exceptionnels, ils sont encore rares, puis à un moment donné, il faut se croiser les doigts que, genre, il va en avoir plus d'affaires de même pour qu'on puisse s'en servir comme d'autres choses que des exemples, puis juste les prendre comme... pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont à nous offrir. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas encore rendu là, mais peut-être un moment donné.
Seul oui, moi, c'est quelque chose que je veux absolument qu'on parle plus tard à un moment donné. C'est genre l'état actuel des jeux indépendants, puis genre des jeux artistiques, si on peut dire. Là. J'aime pas ce terme-là, mais on va le dire pareil.
On l'avait fait un peu il y a une couple de podcasts,
mais
ça vaudrait la peine d'y revenir plus en profondeur. À ce temps qu'on a défini de quoi on parle, là.
D'y revenir puis de se tourner vers le futur puis de genre moi ce que je veux absolument qu'on parle éventuellement dans le podcast, ça serait genre dans 10 ou dans 20 ans quand on va se tourner vers la période actuelle, qu'est-ce qu'on va avoir retenu?
Je sais pas.
Ça c'est un sujet que je veux genre amener genre la semaine prochaine en fait.
OK. Gab, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à autre chose?
On va terminer
avec
ça.
Que la manière dont t'en parles présentement, je trouve pas que ça a l'air d'un jeu. Puis je vais spécifier ça parce que un jeu on Le langage de l'art du jeu, c'est les mécaniques.
Comme d'avoir des règles, d'avoir un but.
C'est ça.
Ouais, c'est les deux règles. La définition d'un jeu, selon les mathématiques, là, c'est des règles, puis un but, une condition de victoire et de défaite. Puis cet objet-là, Dinner Date, n'est pas un jeu.
Non, il correspond pas, c'est vrai, complètement.
Exactement. Ouais. Je veux juste dire que si... s'il n'y a pas de mécanique puis ni de condition de défaite, je veux dire, c'est ce qu'on peut apporter nous-mêmes en tant que joueur au jeu, c'est comme se gratter le menton ou se faire un verre de vin. C'est pas un jeu, c'est une expérience peine interactive.
Puis... Ben pour moi, c'est un problème de nomenclature, surtout. Là, c'est de savoir comment est-ce qu'on veut appeler ça, mais en même temps, je trouve que ça s'inscrit dans les jeux. Là.
Pour moi, c'est un problème négligeable, en fait.
Je veux juste dire que le petit point que je vais amener, c'est que le je sais pas c'est quoi le mot en français, mais l'agence du joueur n'amène rien.
Pas vraiment dans ce cas-là. Ou en tout cas, de façon juste dans l'expérience comme esthétique, contemplative, la patente, mais that's it.
C'est ça. Anyway, juste
je pense pas que c'est sans valeur, mais c'est discutable. Je pense que ça a une valeur en soi, mais ça dépend des points de vue.
Je l'ai juste mentionné.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Louis, rappelle-nous donc le nom de l'auteur.
Jeroen Stout. Je l'ai mentionné dans le numéro 1 de mes regards vers le futur. Fait que si vous voulez voir la bande-annonce ou avoir une couple de liens à propos de ça, ben vous pouvez aller voir ça.
Sur le blog, la chronique numéro 1 de Regards vers le futur.
Oui.
Bon. Alors, moi, je voulais enchaîner avec le jeu auquel j'ai joué. En fait, j'y ai joué, ça fait un petit moment, mais j'y ai rejoué hier pour me remettre dedans, là. Ça s'appelle The Polynomial.
Mm-hmm.
Puis, un peu comme toi, Louis, c'est un peu l'histoire d'une déception, puis d'une... Genre, je suis content, puis je suis pas content de l'avoir acheté, un peu pour les raisons auxquelles
tu parlais. Totalement.
Je vais juste expliquer un peu le concept. The Polynomial, c'est un jeu 3D abstrait. C'est un shooter dans un univers 3D abstrait. En fait, c'est que tu te déplaces sur des fractales basés sur des fonctions mathématiques générées aléatoirement par le jeu. Donc, ça ressemble un peu à Rez, dans le sens que c'est un shooter avec des mécaniques en 3D, puis des belles images qui flashent beaucoup, et aussi pour son synchronisme avec la musique. Mais c'est pas comme Rez, dans le sens que c'est pas linéaire. C'est vraiment genre, voici un univers, promène-toi dedans, Puis après ça, tu peux attraper des objets qui vont faire régénérer une nouvelle fonction mathématique qui va recréer un nouvel univers 3D. C'est un jeu qui est en fait un tech démo que le gars a fait quasiment. Le gars, il a développé une technologie pour générer des images d'une qualité, en termes de mégapixels, d'une qualité incroyable avec à peu près pas de ressources sur la carte graphique. À la base, c'est qu'il utilise des points, puis il fait afficher des points sur un écran basé sur sa fonction mathématique, ce qui fait que t'as presque pas besoin de beaucoup de ressources. Le jeu pèse, je pense, 40 megs, ce qui est minuscule dans l'univers des jeux, pour des images d'une telle beauté. Juste en comparaison, Rez, qui est sorti quand même il y a longtemps, remplissait un gros 800 megs d'espace comme faux, si c'est pas plus, là, je dis des chiffres à peu près. Là. Fait que, bref, c'est un tech démo donc tu te promènes dans un univers 3D à tirer des patentes. Puis je dis tirer des patentes parce que c'est vraiment ça. Genre, il y a un seul type d'ennemi. Il bouge un peu, puis tu tires dessus. Puis des fois, c'est quand tu proches proche d'eux autres, ils vont se tourner vers toi, puis ils vont essayer de te tirer dessus ou de venir te manger. Ils ressemblent à des gros Pac-Man géants, genre. Puis, qui veulent te manger.
Tu dis que c'est un tech démo. Est-ce qu'il l'a présenté comme tel? Est-ce que le développeur non. dit que c'en
non,
est un?
Non, en fait, non. C'est quand même un jeu.
Okay. Je veux dire, il le présente pas que comme quelque chose d'incomplet, là.
Non. Okay. C'est vraiment présenté comme un jeu. C'est sur Steam, ça coûte 10$, puis je l'ai acheté, puis je suis quand même content de l'avoir acheté. Mais c'est ça, c'est que le gameplay là-dedans est un peu faible. Okay. Puis, genre, je suis le premier à dire que Rez a un gameplay faible, mais que Rez est le jeu le plus incroyable de tous les temps.
Parce qu'il compense de toutes sortes d'autres manières,
selon toi. Parce qu'il compense de d'autres manières, c'est ça. Puis, genre, même si le gameplay dans Rez est faible, le concept de Rez, c'est que tu t'en fous un peu de qu'est-ce que tu fais. C'est genre, tu deviens comme dans un état de transe, dans un état zen, puis genre, tu passes à travers le jeu d'un coup. Alors que The Polynomial, j'ai pas retrouvé vraiment cet état de transe-là parce que je suis un peu toujours en train de me battre avec le contrôle du jeu. Ça joue avec la souris puis le clavier, mais genre, je trouve que notre vitesse de déplacement est trop lente tout le temps. Puis c'est comme frustrant. Puis oui, le concept, c'est que plus tu te déplaces proche des lignes 3D qui apparaissent, plus tu vas vite. Mais genre, les power-ups, ils se promènent, ils sont un peu n'importe où, puis les méchants, ils se promènent librement. Fait que donc, t'es obligé de sortir de ces lignes-là pour aller les tuer. Donc, t'es obligé d'aller lentement, ce qui est pas le fun.
Le fait que t'ailles beaucoup de lenteur, puis que ça soit disposé un peu tout croche, c'est probablement parce que c'est généré aléatoirement, puis qu'il y a pas de
exactement.
Design de tableau.
Fait que c'est comme
le penchant négatif de pas avoir de design
la
de tableau.
La mécanique qui est intéressante, en fait.
Ouais.
Mais tu sais, comme... Je veux dire, c'est pas parce que l'aléatoire, c'est mauvais. Je veux dire,
non.
Minecraft, c'est généré aléatoirement, puis Minecraft, c'est super hot. Puis, genre, il y a du design là-dedans. C'est quoi, Love, l'espèce de first-person shooter co-op?
Que personne n'a joué entre nous autres, je pense.
Ouais, non.
Pas moi, en tout cas.
Mais Love, c'est tout généré aléatoirement, puis l'AI est tout aléatoire, puis tout est complètement fou dans ce jeu-là. Mais, genre, ça reste structuré, il y a une progression, il y a tout ça. Dans The Polynomial, il n'y a pas ça.
Okay.
Puis, donc, ce qui me vient à dire que c'est plus comme un jouet plus qu'un jeu. C'est super beau. Écoute, j'ai passé des heures j'ai passé quelques heures, dans le fond, à jouer au total. Puis, genre, je me suis amusé. Je veux dire, le jeu supporte les lunettes 3D. Fait que, donc, j'ai passé un certain temps à calibrer mes lunettes rouges et bleues pour pouvoir voir l'effet 3D. Puis j'avoue que c'était le fun. Tu sais, tu te promènes, c'est en 3D, c'est cool. Tu fais comme, waouh, j'ai une expérience 3D sur mon ordi, alors qu'il y a, genre, tout le monde paye des centaines de millions de dollars pour s'acheter des TV 3D avec des lunettes super chères. Puis moi, je suis là avec mes lunettes rouges et bleues, puis c'est cool.
C'est juste pour dire, Minecraft aussi, il a l'effet 3D rouge et bleu.
Pour vrai?
Ouais.
Ouais.
Oh, ouais.
OK.
Mais mon laptop est tellement bon que ça fonctionne pas.
Bon, je parlais du fait qu'il utilise de la musique. Bon, Polynomial, il arrive avec une soundtrack. Puis le concept, c'est que les lignes de la fonction fractale vont comme... comment je pourrais dire, vibrer en fonction de la musique. Donc, tu sais, ça marche, ok, mais c'est pas aussi intense que Rez. Rez, ça vibrait, ça... Je sais pas exactement le mot français, mais ça pulse.
Ouais.
Ça, c'est quoi le pulse en français?
Pulsation, là, mais je suis pas sûr qu'il y a un verbe.
Ça faisait une pulsation. Ça pulsait. Tu sentais comme des impacts à chaque beat de la toune.
Ça l'impulse.
Alors que Polynomial, c'est comme plus comme une wave de son. Ce qui est intéressant aussi, mais qui est pas vraiment aussi hot, selon moi.
Okay.
C'est tout plein de petits détails comme ça, genre... vu que on peut, le jeu utilise une soundtrack, mais on peut aussi mettre notre propre musique, parce que dans le fond, le jeu fait juste analyser la wave de son puis la reproduire sur les fractales.
Tu peux mettre
n'importe quelle musique, ce qui est intéressant, mais ça affecte pas vraiment le gameplay. Un autre point vraiment bizarre, c'est que le jeu a à peu près pas d'effet sonore. Ce qui fait que la musique a de l'air complètement détachée. Même okay, si ouais. elle est intégrée au jeu, elle a quand même l'air détachée. T'as pas l'impression que le gameplay, ce que tu vois à l'écran, puis ce que t'entends dans tes oreilles, ont un lien entre les deux.
Je me souviens plus. Est-ce que tu te souviens si Audio Surf avait des effets sonores? Ben, c'est sûr que je pense à ça.
Oui, il y a des effets sonores, mais ils sont pas... Ils sont pas particulièrement bien timés avec la musique.
OK, mais ils sont timés comme avec les blocs dans lesquels on rentre, j'imagine.
Ouais, quand on fonce dans un bloc, ouais, on l'entend
sonner. Mais au moins, il y a ça, tu sais, on a l'impression qu'il y a une petite rétroaction, là.
Ben, il y en a un peu dans Polynomial, mais c'est juste comme pas aussi hot que Rez. Rez, c'était vraiment, genre, une expérience de synesthésie où chaque explosion, chaque action du joueur devenait un son, devenait une couleur, devenait une vibration dans la manette. T'as rien de ça dans Polynomial, puis genre, c'est sûr que... Le jeu est probablement super bon si tu rentres pas dedans en disant genre « Yes, j'ai enfin trouvé un nouveau Rez ».
Mais c'est...
Probablement.
Est-ce que c'est ça que t'as fait?
Oui, exactement. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait comme « Ah! C'est Rez! » Je me peux plus. Je te dis, j'ai littéralement sauté sur ma carte de crédit et acheté instantanément après l'avoir vu la bande-annonce.
Tu l'as pas brisé en sautant dessus, j'espère.
Quasiment.
Un jour, Naf, on va te trouver le nouveau Messie. Ouais, tu vas pouvoir mourir tranquille.
Child of Eden, je l'attends dessus.
J'en ai un autre à te proposer qui s'appelle Plank, mais on va attendre que ça sorte un moment donné.
Ok, d'accord. Bon, ça fait assez longtemps que j'ai parlé, là. On va couper ça. Et on va enchaîner avec un jeu pas mal plus rapide.
Et rétro.
Ouais, rapide.
Blob, t'as joué à...
Sonic Adventure 2 Battle. Puis là, ben, je dois
pas
vous
nouveau,
dire
ça,
que...
Hein?
Non,
c'est pas nouveau, c'est
merde.
Sorti en 2001, 2002 à peu près. Hein, fait que ça a un bon 10 ans. Puis,
là,
ben,
vous
j'ai
le voyez
décidé...
pas, là, mais mes yeux, ils roulent. Ils roulent vers le ciel. Parce que Sonic, encore, Seb, pitié, aie pitié de moi.
Ben,
ah oui, parle de
ton Sonic. On pourrait utiliser ce temps-là pour parler de Minecraft.
Oui, c'est ça. Bon. Donc, j'ai décidé de le revisiter parce que ben, l'autre jour, j'étais avec mon ami. Là, il m'a dit je file pour prendre Shadow, puis tout. Puis là, j'ai fait « Ah, OK ». Fait que là, je sors ce jeu-là. En fait, il voulait jouer à Smash parce que moi, j'ai des hacks de texture, puis on peut prendre Sonic puis le transformer comme en Shadow, là. Bon, fait que là, finalement, j'ai pris ce jeu-là par erreur, puis il a fait, ben, c'était pas ça, mais OK. Fait que là, on a joué, puis ben, on s'est rappelé à quel point c'était le fun. Puis, ben, j'ai décidé de le refaire cette semaine pour voir comment ça tenait, même aujourd'hui. Puis, ben, j'ai été un peu surpris. Moi, c'était l'effet Jurassic Park, là. Moi, Jurassic Park, dans ma tête, c'est écrit que c'est le meilleur film du monde, puis il ne faut pas que je réécoute ce film-là, juste de peur que je vois des choses que je trouve moins bonnes, là. Je dois plus écouter ce film-là, c'est tout. Puis ça, j'avais un peu les mêmes appréhensions. Fait que j'ai été quand même agréablement surpris parce que c'est un jeu qui est un petit peu ambigu, fait qu'il fait vieux, mais en même temps, il est assez intemporel. Il y a des choses qui réussissent à rester même aujourd'hui.
Sceptique, là. Convainc-moi.
Ben là, ce que je peux dire, c'est que ce jeu-là a à peu près autant de problèmes que d'avantages. Là, je vais pas toutes les énumérer, mais je veux dire, on va se battre autant avec les ennemis qu'avec la caméra, pour commencer.
Solide.
Quoique, la caméra, en général, elle veut te pointer du bon bord. C'est si toi, ça te tente de reculer ou d'aller un petit peu à côté, ben elle va faire « Non, 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 moi je regarde par là », puis elle va revoler comme un élastique, puis revenir du côté où est-ce que le tableau continue, là.
Ouais. Fait
que, tu peux explorer, sauf que la caméra, elle aime pas ça.
Puis le jeu veut t'encourager à explorer parce qu'il y a un paquet d'affaires à trouver. Écoute, c'est quand même un platformer.
Oui, ouais, il y a des petites choses cachées en arrière de toutes sortes de places là, que tu peux voir.
Platformer qui ressemble à quoi? C'est-tu 2D ou c'est...
C'est 3D. C'est 3D. C'est un jeu de Dreamcast au départ.
Okay. Ouais,
il y avait Sonic Adventure, puis il y a eu Sonic Adventure 2 qui était... À l'époque, sur Dreamcast, c'est comme une révolution, là. C'était comme une grosse affaire et ça a été très populaire. Puis je dirais que c'est peut-être un peu ce qui a vraiment lancé Sonic, pas mal plus que les jeux de GameCube.
Oui, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il soit sorti sur GameCube, ça marquait un
tournant
assez spécial.
Et c'est de là que viennent tous ces millions d'amis cons.
Oui, un peu. Mais c'est surtout dans Sonic Adventure 1, je dirais, qu'ils apparaissent, là. Dans le 2, en fait, il y en a quelques-uns, mais la majorité n'ont pas été retenus, là.
Big the Cat.
Big the Cat, c'était dans le 1, là.
Ah.
Pour faire un lien avec l'affaire des amis, moi, ce que j'avais joué un peu quand j'étais plus jeune, ce que je me rappelle, puis que j'avais trouvé quand même intéressant, c'est que la cadence du jeu, puis des tableaux, variait en fonction du personnage qu'on jouait.
Oui, c'est un jeu extrêmement varié.
C'est
pour,
ça. De tableau en tableau. Donc,
pour le meilleur, pour le pire.
Il y avait comme...
De
certains
quel Sonic
qui étaient très
exactement tu parles?
Je parle du même.
De celui-là.
Il y a les tableaux de course très très rapides de Sonic, ceux de tir qui sont plus frénétiques, plus explosifs avec je sais plus qui.
Ouais.
Puis ceux qui sont
avec
plus...
Avec Tails, le professeur Eggman, parce qu'on peut faire l'histoire des gentils comme des méchants.
C'est ça, puis c'est comme en parallèle. Puis il y avait aussi des tableaux d'exploration plus tranquilles, puis plus... un peu plus subtil avec les deux autres.
Oui, on faisait de la recherche avec Knuckles. Pis,
est-ce que ces tableaux-là, plus lents, ils passent l'épreuve du temps ou ils sont juste ennuyants?
Oui et non. Okay. Oui et non, ça dépend.
En tout cas, je te laisse continuer ton commentaire.
Moi, j'ai peut-être une vision un peu biaisée ou personnelle de toute l'affaire parce que c'est mon premier vrai jeu de Sonic. Là. Je veux dire, j'ai acheté ce jeu-là puis j'avais jamais joué à Sonic avant. Là. À part, je veux dire, Sonic 3 sur console Tiger là, à cristaux liquides. Là. Tu sais, noir sur un fond fixe.
Mon Dieu.
Ouais,
j'ai joué à ça
j'avais
tellement
eu ça
quand j'étais jeune.
Je l'ai encore puis il marche encore.
Oh
là.
Boy, moi aussi! Wow!
En tout cas...
Et ça, c'était même pas un jeu, là. C'était une calculatrice quasiment.
Oh, oui, c'est ça. C'est quelque chose de spécial.
Mais c'était tout ce que ma mère voulait m'acheter comme jeu vidéo.
Moi aussi.
Pendant un bout
première
de...
chose que j'ai eue. Là.
Ouais, ça
on voit que Sonic est quand même rentré assez creux dans ma tête, là, dans le fond.
Ouais.
Mais bon, ce que je peux dire de ces tableaux-là, c'est que, ben, au début, comme ils sont faciles, on les traverse sans problème, puis on fait « Ah, la musique est bonne,
ça
tire
c'est,
pas
c'est
pire. »
C'est tranquille, vraiment.
Oh
ouais,
ça va du bon bord, ça fait un petit break. Mais à mesure qu'on avance, je veux dire, il y a des bouts qui sont un peu frustrants, puis ça
devient
très, 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 très
de
répétitif.
Là,
hein? Là. Ben là, je parle des tableaux où on tire. Là,
okay,
là on se promène dans un méca, puis ben le système de tir est le fun, quoique ça vise un peu mal, mais ça vise un peu automatique en même temps. Là, fait que, je veux dire, ça essaye de compenser. Là. C'est pas si pire. Puis...
Ouais, parce qu'il y a des mechas dans Sonic.
Ouais, ouais.
Gab, t'avais l'air de trouver ça bien drôle. Là.
Ben, ouais. T'es mecha.
En fait, je te dirais que c'est plus comme... ça ressemble plus genre MechWarrior.
Okay.
Avec Tails dedans.
Tails est embarqué dans son avion, puis son avion, il se transforme avec des jambes puis un canon, là. C'est tout.
Fait que c'est comme une simulation vraiment fidèle de ce que ce serait un mecha, mais avec Tails dedans.
Ouais, un peu. Puis le professeur Eggman. Robotnik, quand tu joues avec les méchants, là.
Mm-hmm. Ben, c'est quoi la structure de ce jeu-là? Est-ce que c'est comme... y a-t-il un hub avec l'accès à plusieurs tableaux?
Non, en fait, t'as les deux histoires. Il y a pas vraiment un hub. T'as une carte où tu peux choisir ton tableau quand tu fais pas l'histoire. Là. Quand
à
tu
la
veux
Mario,
aller choisir un tableau, tu t'en vas sur une carte puis tu le choisis.
à la Mario 3 ou Super Mario World. Là.
Ouais, c'est ça, mais sinon, les tableaux, ils s'enchaînent, puis tu la vois pas, la carte, quand tu fais le mode histoire.
Ouais, je me suis trompé, ouais.
C'est ça, puis on change de personnage à chaque tableau, en fait.
C'est ça, là, tu fais un tableau de course, un tableau de tir, un tableau de recherche, où tu vas avoir trouvé trois objets dans une grosse salle, comme fermée, là, mais des fois, sont quand même assez grosses, puis il y en a qui sont le fun, là. Puis après ça, ben tu vas avoir peut-être encore un petit peu de course. Puis là, à un moment donné, en plein milieu du jeu, t'as un bout où est-ce qu'il faut que tu conduises une auto sur une autoroute.
Ça va super mal.
Ça va vraiment mal. C'est affreux.
Fac, pourquoi revenir à ça pour n'importe qui, là?
Je ne sais pas s'il y a vraiment
quelconque intérêt à part pour toi.
Ben, ce que je peux dire de ce jeu-là, c'est que les contrôles sont un pour un. Je pense que Tim Rogers aurait quelque chose à dire sur les contrôles de ce jeu-là parce qu'il y a des frictions intéressantes.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que ça sert vraiment du contrôle analogue à 100% parce que tu vas pousser juste un petit peu pour vouloir te rendre exactement là où tu as besoin.
C'est fou, hein? Il y a comme tellement peu de jeux à part Mario 64 qui ont fait ça depuis au fil des années. Là.
Mais dans Sonic aussi, tu cours puis quand tu veux te tasser un peu, tu te tasses à la vitesse que tu as besoin. C'est de bien maîtriser ton manche quand tu fais ça. C'est de bien voir en avant. Puis, je veux dire, il te demande des fois peut-être un peu trop de précision. Des fois, il va un petit peu trop fort. Tu sais, tu veux aller... Mais ça, c'est toi, dans le fond, qu'il faut qu'il gère ça. Puis c'est parce qu'on n'est pas habitué de le gérer dans la majorité des jeux, je pense. Puis je peux dire aussi
parler du fait que les tableaux, genre, vers la fin, sont impossibles?
Non, ils sont pas impossibles.
Est-ce que j'ai jamais réussi à le finir?
Je peux revenir un peu avec, là, mais...
T'es pas bon, les jeux vidéo.
Mais
mon frère non plus, lui, il est bon.
Ce que je veux vraiment couvrir, c'est que ce qu'on se rappelle de ce jeu-là, c'est les tableaux avec Sonic puis Shadow qui sont incroyables. Ouais, là, je veux dire, par exemple, la forêt, tu rentres dedans, il y a un des meilleurs riffs de guitare jamais entendu dans un jeu.
Je me souviens que la guitare, la musique avait de la drive en tabarnouche.
Et souvent, la musique, tu l'écoutes, puis ça sonne pas comme une musique de jeu, ça sonne comme un vrai band. Je veux dire, ça sort, là, pis c'est vraiment le fun. Évidemment, quand la caméra coopère bien, puis je veux dire, quand tu joues vraiment bien, la caméra, elle a pas le choix d'être du bon bord. C'est niaiseux, mais quand tu joues bien, la caméra, elle va être parfaite.
Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez...
Mais c'est toi qui fasses le travail.
Ça, mais il y a quand même quelque chose d'assez automatisé dans les Sonic des dernières années.
Ouais, mais
c'est
celui-là...
C'est pas archi-technique non plus. Là.
Celui-là, il y a quelque chose de plus que les autres. Parce que quand tu, par exemple, tu vas aller glisser sur des rampes avec tes pieds, là, dans les autres, ils ont enlevé tout contrôle. Dans celui-là, quand tu descends une pente sur la rampe, ça va plus vite. Quand tu te baisses, tu peux aller plus vite. Quand ça tourne, il faut que tu te penches parce que tu vas tomber.
Oui, puis ça va, tu tombes
ça,
tout
c'est
le
difficile.
Temps.
Ça, c'est difficile un peu. Il faut que tu apprennes à bien pencher ton manche. Pas trop, mais assez.
Puis après ça, vers la fin, il y a un tableau que c'est que des rails. Que
exactement.
Faut que tu vises la bonne rail, que tu es tout dans le bon angle. Puis si tu tombes, ben tu meurs puis tu recommences du début.
Non. T'as des checkpoints réguliers. C'est parce qu'il faut que tu ailles les prendre, là, mais ils sont sur ta route.
Rendu là, t'es supposé être dans du bon.
Je pense que toute ma frustration envers Sonic vient de ce jeu-là. Fait que, je veux dire,
mais c'est pas de ça qu'on va parler.
Non, ok, je m'excuse.
On l'a compris, ta frustration, Naf. On
ce
empathise.
Qu'on, oui, ce qu'on va dire, c'est que si je prends, par exemple, Sonic Secret Rings, quand tu t'en vas sur une track, un rail comme ça, une rampe, la vitesse est fixe. T'as pas à tourner. Okay. Ouais. Tu fais rien.
C'est ça mon impression négative, en fait, mais tu fais bien de nous rappeler que c'est pas comme ça dans celui-là, en fait.
Non, les rails sont plates dans toutes les autres.
Ok.
Celui-là, c'est le seul qui les faisait bien. Peut-être qu'il les faisait un petit peu trop durs, c'est vrai. Peut-être que c'était trop sensible. Mais je veux dire, tu peux compenser en étant meilleur, même si ça t'en demande beaucoup, là.
Il y a une affaire que j'ai aimé de ce jeu-là, pareil. C'est le mode... Il y a un mode à deux joueurs.
Oui.
Et puis, genre, faire les tableaux de Sonic... Quand ça devient une course contre un autre
c'est
joueur.
C'est ça, en compétition.
Ça, j'avoue que c'est plus le fun parce que l'idée, c'est que quand tu meurs, tu recommençais pas du début. Tu faisais juste comme perdre du temps, puis après ça, tu continuais.
Mais en fait, tu pouvais recommencer au dernier checkpoint, mais souvent, c'était celui qui était en avant qui avait pogné le dernier checkpoint. Fait que tu réapparaissais au sien.
Ah, okay.
Bref, il y avait un élément de stratégie, c'est d'attendre que l'autre soit rendu avant de tomber dans le trou.
Ça devient juste
là, tu le rattrapais
plus,
super vite.
Ça devient juste comme plus arcade comme expérience un peu.
Ouais. Les tableaux étaient souvent raccourcis aussi, mais l'expérience un contre un est vraiment le fun. Puis c'est ça qui m'a remis dedans. Tu sais, c'est quand avec mon ami on a repris ça puis qu'on a fait une coupe de course. Puis là j'ai fait, hey, j'en ai reperdu, faut que je me pratique.
Moi, tu me donnes le goût de me l'acheter au GameCube si je le trouve à un moment donné. Mais en tout cas, on verra ça.
Ouais, ben il doit pas se vendre très très cher de toute façon.
Ouais, c'est ça, il doit être assez commun.
Je suis pas mal sûr qu'il se trouve pas vraiment, en fait, parce que des places qui vendent des jeux de GameCube maintenant,
hein, je sais pas,
c'est assez rare.
Pas trop de misère, moi, en tout cas.
Je peux dire que dans les Sonic 3D aussi, c'est celui qui a la meilleure impression de vitesse. Quand tu cours, les effets visuels, il y a des petites affaires qui passent, la vibration dans ta manette, juste de voir ton personnage vraiment courir, vibrer comme de plus en plus vite à chaque pas, vraiment très très vite là. À un moment donné, tu vois plus les jambes, mais c'est pas parce que c'est un effet graphique, c'est parce qu'il va vraiment plus vite que le frame rate.
OK. Je me demande
c'est un des rares jeux qui est capable de faire laguer un GameCube à ma connaissance là.
Là, mais est-ce que tu penses jouer à Sonic Colors?
Oui. Okay. Je suis très encouragé par ce jeu-là. Je suis sûr qu'il réussira pas à faire les rails comme il faut. Mais okay. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de nouvelles choses là-dedans qui vont être aussi très le fun.
Parce que tu nous diras comment ça se compare, moi je suis curieux de savoir.
T'es vraiment un fan. Fait que toi, on va t'appeler le dedicated Sonic player.
Je suis un fan, oui. Il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. Je suis un fan de ceux qui sont bons. J'aime Sonic, j'aime pas ce qu'on a parfois fait avec lui.
C'est bon ça, être fan des affaires qui sont bonnes. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir.
Ouais, je pense qu'ici, on est tous fans des choses qui sont bonnes.
Ah, oh, il y a des exceptions.
Je termine
sauf
avec...
Sauf Louis qui joue à Dinner Date. Bitcherie
not fair.
Gratuite.
Je disais un replay value sélectif.
Ouais, je suis curieux de savoir.
C'est parce que ce que vous allez rejouer, c'est les courses un contre un.
Ah, OK.
Les autres choses, vous les referez pas. Parce que honnêtement, là, il y a plein d'affaires. Vous pouvez faire... peut-être vous allez vouloir attraper les emblèmes. Ça, c'est-à-dire que vous allez dans chaque tableau, vous essayez d'avoir des bons pointages, de le faire vite, d'avoir les 100 anneaux, ou de trouver un chao qui est caché. Là.
Ça, c'est juste stressant.
Ouais.
En tout cas, ça peut l'être.
Ouais, ça peut. Les chao, en passant, c'est des espèces de bébites Tamagotchi qu'on peut élever. Puis c'est super le fun parce que quand vous les élevez, ils peuvent donner de toutes sortes de couleurs, puis faire toutes sortes de choses. C'est comme infini. Ça serait un jeu séparé si on voulait.
Mais ça donne
oui,
pas des achievements.
C'était surtout un prétexte. Non. C'était surtout un prétexte pour ces gars de vendre des VMU à l'époque du Dreamcast. Puis okay, quand ouais. C'est rendu sur, quand ça s'est devenu Sonic Adventure 2 Battle, c'était celui sur GameCube, puis là tu pouvais le transférer sur le Game Boy Advance.
Ouais. C'était le fun.
Eh ben,
il y a ça, il y a les courses de char là. Ben une fois qu'on a fait les deux tableaux, ça débloque trois pistes de courses de char où on peut choisir les personnages qu'on veut, puis toutes les chars ont des stats différents là, puis ça aurait il y a comme plein de profondeur, mais les autos se conduisent vraiment super mal.
C'est comme un Mario Kart avec autant d'options que Mario Kart, mais genre avec zéro contrôle.
Ça a l'air par contre que le Mario Kart de Sonic qui est sorti l'année dernière, il est bon. Mais...
Ouais.
Ah, sûrement.
J'y jouerai sûrement jamais.
Moi non plus.
Bref, c'est ça. Vous avez un jeu avec des modes d'histoire, vous avez... Vous pouvez aller élever des chars, faire des courses d'auto, aller chercher n'importe quoi. C'est vraiment trop large. Moi, si j'avais un mot à dire à ces gars à propos de ce jeu-là, c'est merci d'avoir essayé d'en faire trop.
Ouais.
Si le jeu marche pas à certains endroits, c'est parce qu'ils ont essayé d'exploiter des affaires qu'ils étaient juste pas capables de faire.
Mais
personne n'aurait été capable
Dreamcast,
de le faire.
C'était une grosse affaire, ça.
Personne n'aurait réussi
immense.
Ça.
Puis après ça, ils ont comme juste nivelé vers le bas en se disant, bah, ben, peu importe ce qu'on sort, ben, les gens, ils vont sauter dessus, puis that's it. C'est ça le feeling que moi, j'ai avec cette franchise-là.
Peut-être. Ils ont arrêté d'innover beaucoup après
c'est
ce
comme si
là,
après,
ils
l'avaient comme pris pour acquis, puis qu'ils étaient sur leur laurier un peu.
Puis pourtant, ils auraient dû prendre ce jeu-là, puis l'améliorer. Mais... Ben, les améliorations qu'on fait, c'est enlever du contrôle pour que ça soit moins dur. Principalement.
OK.
Alors, c'était Sonic Adventure 2 Battle sur GameCube. C'est ça que t'as joué sur GameCube, hein?
Ouais.
Ouais, t'as pas de Dreamcast.
Et évidemment, j'ai refait la bataille finale, qui est genre un de mes combats préférés. J'en avais parlé à l'autre émission, là.
Tu
séquence de fin.
tu t'en parleras sur le blog. Je suis sûr que ça va être intéressant de lire ton article. Et surtout, j'aimerais ça que tu mettes une vidéo pour que... Non, j'insiste. J'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience dans ce combat-là et que tu mettes une vidéo pour qu'on voit à quel point que c'est de la merde.
Il faudrait que je m'enregistre en le faisant et que je commente.
Et sur ce commentaire insulte gratuit, on va prendre une pause là, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Sonic, ça va tellement vite, ça nous a tout épuisé.
Bon.
Puis là, on dit-tu qu'est-ce qu'on écoute? Seb, tu veux-tu en parler avant ou après?
On en parlera après.
On en parlera après. Bon, alors, vous allez écouter une toune que Seb a choisie, qu'on va en parler après. Et au retour, on parle des actualités avec Super Meat Boy et plein d'autres affaires.
Parfait.
C'est du Dragon Force?
Trying to ignore, yeah, but you can't hide.
Bon, là, Seb, je vais y aller tout de suite en ma réputation de haters, de gars qui détestent tout, et de trolls. Qu'est-ce que c'est bon, ça, cette affaire-là que tu viens de nous faire écouter?
Ben ça, c'est la toune qui joue pendant que tu finis le jeu de Sonic Adventure 2 Battle, puis que t'es dans l'espace, puis t'es Super Sonic, puis Super Shadow, puis tu fonces dans un lézard géant qui a une station spatiale dans le derrière. Si c'est pas assez épique à votre goût, ben je sais pas qu'est-ce qui va genre vous convaincre, là. Mais avec cette toune-là, moi, en tout cas, je connais pas grand-chose là, de mieux, là. Surtout quand c'est le solo, là.
J'avoue
vraiment
que
bon solo, là.
Les colonoscopies
ben, je veux dire
de station
que c'est
spatiale, c'est assez malade.
Là, la station spatiale, elle va s'écraser sur Terre, là. Tout
quand
est
même
en feu.
OK.
Bon, alors, je vais m'abstenir de commentaires.
T'es mieux.
Ouais. On a juste une vie, le premier podcast animé par un troll. Bon, c'est le temps des actualités. Soyons plus trolls en parlant de Super Meat Boy. Super Meat Boy qui s'en vient sur PC. Ça va être lancé sur Steam. Le studio qui le fait, c'est Headcrabs. Puis ils ont décidé qu'il sortait sur tout. Fait que là, après l'avoir sorti sur Xbox Live Arcade, voilà une semaine ou deux.
Qu'est-ce que t'as dit? Le studio qui le fait, c'est Headcrabs.
Ouais?
Non.
Pas pantoute, c'est
fuck,
Team
non.
Meat.
Ah, fuck. OK, on recommence cette news-là.
Ben non.
Ben oui. Parce que là, je passe pour un épais.
Ben oui, en plus d'être un hater.
Ah, OK, on va le laisser d'abord. Alors, donc, le studio, c'est pas pantoute Headcrabs.
Non, mais il y a des Headcrabs dedans.
Oui, non, c'est ça. Je lis ma feuille de route vraiment tout croche, là.
Ben, c'est ça. Tourne-la à l'endroit.
Ah! Mon ordi était penché.
Donc, c'est fait par Team Meat. Puis si vous l'achetez sur Steam, vous allez avoir un headcrab dedans.
Ouais, parce que l'idée, c'est qu'il rajoute des personnages qui viennent de d'autres jeux. Sur Xbox, c'était quoi? Il y avait Guiche, puis il y avait... C'était quoi?
Je pense qu'il y a Commander Video dedans,
oui,
entre autres.
Non, c'était pas dans celui... Ça, c'est dans celui sur Wii.
Oh,
sur Xbox,
là.
C'était... Ah, je m'en rappelle plus. Il y avait... Je sais que pour la version PC, je pense qu'il voulait... Ah, ça fit pas pantoute. Il me semble qu'il voulait mettre le gars de Minecraft.
Oui, mais il est là aussi.
Ah,
je
il est là
qu'il...
aussi.
Oh, oui, mais je pense qu'il en rajoute plein, puis on sait pas lesquels ils mettent sur lesquels. Là.
OK, bon, ouais. Bref.
Mais,
y a
mais
des
ils vont chercher des
bonus.
Jeux indépendants, ils vont chercher des bonhommes ou des jeux populaires super bons, puis ils mettent le bonhomme dedans.
Donc, je reprends du début. Super Meat Boy s'en vient sur Steam. Ils vont le lancer au coût de lancement de 10$, puis ensuite de 15$. Il va monter à 15$ pour être son prix définitif. Ce qui est la même chose qu'ils ont fait sur Xbox Live. En fait, le jeu a parti à 10$ et il va être 10$ jusqu'au 21 novembre. Donc, vous pouvez aller l'acheter. C'est-tu rendu comme une mode, ça, de lancer les jeux moins chers puis de faire comme sur le iPhone où ce que les jeux ils commencent à 1$ puis qu'ils montent ensuite?
Ben, je sais pas.
Ça arrive sur Steam de lancer des jeux
à 10% rabais. De rabais, ouais. Mais genre, il y a juste sur Steam qui font ça d'habitude, là.
Ouais, l'affaire avec Xbox Live, c'est qu'ils ont trouvé une crosse pour pouvoir le lancer comme ça.
Dans le contrat de Microsoft?
Ouais.
Ben, sur iPhone, en tout cas, ça marche au bout. Je veux dire, les jeux sortent souvent à 1$ ou même gratuits. Là, ils montent dans le ranking, ils s'en vont au top du ranking, puis là, le gars, il le met payant.
Ouais. Moi, personnellement, sur Steam, j'achète presque juste des jeux en spécial.
Ouais.
Parce qu'ils font des excellents spéciaux.
Mais je veux dire...
Sans arrêt.
Ouais, à part Steam, puis genre... À part Steam, il y a rien qui font des spéciaux comme ça. Je veux dire, dans les magasins, les jeux, c'est le contraire. C'est qu'ils vont commencer plus cher puis ils vont baisser de prix ensuite.
Ouais, mais
toutes tu les... payes pour le plastique.
Mais Direct
quand
Drive...
Sur... C'est ça, quand t'es sur Steam, tu payes juste pour le jeu puis ça leur coûte pas plus cher de t'en vendre un à 5$ ou à 35$.
Direct to Drive, Good Old Games, ils font aussi des rabais comme ça.
Ouais, mais au lancement?
Peut-être pas au lancement, mais ils font des rabais aussi.
En tout cas, c'est juste une petite affaire que je trouvais bizarre. C'est
Puis on va tellement s'en plaindre.
Ben ouais, hein? On est en train de se plaindre que c'est en rabais au lancement.
Ouais, bref. C'est ça. Ils vendent pas ça assez cher, les jeux vidéo.
Ouais, des jeux moins chers. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Arrêtez, je vais m'arracher les cheveux juste à vous entendre.
Surtout que je me rappelle que Killer Instinct au Super Nintendo, mon père me l'avait payé 120$.
Pourquoi ça coûtait aussi cher?
Parce qu'il venait avec un CD de musique. Mais les jeux au Super Nintendo, ils étaient souvent 100-120$.
Ouais, ben c'est parce que c'était des cassettes de mémoire. C'est comme si aujourd'hui... C'est un peu comme si aujourd'hui, t'achetais un jeu puis qu'il arrivait sur un disque dur externe. Ben, un disque dur externe, ça coûte à peu près 100$.
Effectivement, ouais.
Hey,
c'est un peu le même principe, genre.
Belle comparaison.
Fait que bref, Super Meat Boy, sur Steam, il sort le... Non, il est en précommande jusqu'au 28 novembre, donc pour avoir le rabais, il faut le précommander. Et si vous le précommandez sur Steam, vous allez avoir des Head Crabs en bonus. Puis si vous l'achetez ailleurs, genre sur les autres plateformes de téléchargement, vous allez avoir les Goo Balls de World of Goo. Bref,
ça, c'est
ça, fun. La nouvelle.
Moi, je l'achèterai même pas sur Steam parce que c'est les Goo Balls que je veux.
Moi, je veux juste y jouer, j'ai tellement hâte.
Ah, moi, je serais jamais capable de jouer à ça. Ça va être bien trop dur.
Moi, j'attendais pour la version Wii, sauf qu'ils ont tous les problèmes du monde à essayer de rentrer ça dans la limite. Parce que je me rappelle pas c'est combien de meg, mais il faut qu'ils le compressent. Puis là, ils sont pas capables.
C'est sûr,
mais
que
c'est
quand
ça
que
tu disais avec
le
polynomial. Tantôt, 40 meg, c'est petit. Ben, il faut qu'ils rentrent Super Meat Boy là-dedans. Puis il y a beaucoup trop de stock.
Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup de musique. J'ai écouté la soundtrack. On peut. La soundtrack est en. Es-tu gratuite ou un genre payer ce que vous voulez, une affaire comme ça, là? Mais on peut l'écouter au complet sur, je pense, c'est sur CD Baby ou sur Band, comment ça s'appelle? En tout cas, bref, je suis sûr que si vous tapez Super Meat Boy dans Google, vous allez la trouver.
Bon.
Puis il y a plein de musique, puis elle est quand même assez bonne. Genre, ils ont varié beaucoup, il y a beaucoup de styles, tu sais, il y a genre du gros rock, de l'électro, il y a genre de tout. Bref, c'est ça. Ensuite, on parle de Steam. Là, il y a Microsoft qui vient de lancer pour PC leur Games for Windows Marketplace. En fait, ils l'ont pas lancé. Je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, là, les Games for Windows. Mais là, ils viennent de refaire leur interface, de le faire online. Donc, c'est contrairement à Steam que tu installes un logiciel. Là, ça
se fait
dans, c'est un site. Puis après ça, tu downloads le jeu. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils l'ont annoncé ouvertement, là, ils ont dit spécifiquement, nous ne vendrons pas de jeux qui utilisent Steamwork. Bref, si vous cherchez le dernier Call of Duty Black Ops, il sera pas là.
Raison.
Ah ben c'est parce que c'est Steam. Steamworks.
La compétition.
Ouais, mais d'accord.
Ben c'est écoute. Microsoft lance ça spécifiquement pour faire de la compétition avec Steam. Parce que Steam, c'est rendu genre la plateforme d'achat pour les jeux PC.
Ouais, mais
à peu près tous les jeux PC sont sur Steam.
S'ils vendent les jeux qui utilisent Steamwork, ils vont en vendre plus.
Ah, ouais. Ben, c'est ça que les autres compagnies ont. Genre, si tu regardes. C'est Direct to Drive, si je me trompe pas, qui avait commencé en disant « Ouais, nous, on vendra pas les jeux qui utilisent Steamwork. » Puis au bout d'une couple de mois, ils ont fait « Ouais, ben, on va les vendre finalement parce que sinon, on n'a rien à vendre. »
Ouais. Hein?
Parce qu'il y a bien des jeux qui utilisent Steamwork parce que tout le monde se rend compte que c'est cool d'être sur Steam puis que Steam, c'est bon puis que ça marche. Puis genre que t'as du multiplayer online puis des serveurs puis tout est vraiment hot. Puis genre, tu peux, une fois que t'achètes le jeu, il est vraiment à toi. Tu peux le redownloader autant de fois que tu veux. Puis t'as pas à te faire chier. Steam, c'est comme le rêve, là. C'est comme la plateforme à viser. Puis là, Microsoft se lance là-dedans avec leur mentalité de Xbox Live. D'ailleurs, ils disent, genre, on accepte les cartes de crédit, mais on accepte aussi les points Microsoft, là. Tu sais, mettons que vous en avez, là.
Les mêmes que sur le Xbox Live.
Reste 200.
Ouais, mais 200 points Microsoft, ça équivaut à quoi? C'est
un t-shirt pour ton avatar.
Wow.
Wow, ben...
C'est parce que ça va t'en prendre en maudit des points pour acheter un jeu à 60$.
Mais mon avatar va avoir le meilleur t-shirt au monde.
D'accord.
C'est bien.
Fait que, pensez-vous qu'ils ont la moindre chance de réussir?
Je pense que...
Ça dépend comment tu vois ça, tu sais. Est-ce que ça va leur coûter cher d'avoir cette chose-là? Et si ça leur coûte presque rien, est-ce que c'est un avantage de vendre des jeux par une plateforme qui vous coûte presque rien? Ben, probablement. Je sais pas.
Je pense qu'ils vont avoir les parts de marché qui vont vouloir, ce qui veut dire pas beaucoup, mais...
Ils veulent juste être là, on dirait. On dirait qu'ils veulent juste être partout, en fait.
Ouais, il y a une grosse part de ça, évidemment. Je pense que un des points qui est à leur avantage, c'est que, tu sais, s'ils l'intègrent vraiment avec Windows, genre t'achètes Windows, puis il y a comme ça déjà dedans... Ça peut être une bonne chose. Mais bon, on remarque qu'ils faisaient ça à l'époque avec MSN, puis ça n'a jamais pogné. Puis là, je parle de MSN, pas MSN Messenger, là. Genre leur espèce de browser bizarroïde, là. Ça n'a jamais marché.
Ouais, mais dans le fond, c'est qu'ils peuvent peut-être inviter les gens qui connaissent pas vraiment, qui connaissent pas Steam, qui connaissent pas vraiment le jeu PC. Peut-être que quand tu l'ouvres Windows Marketplace, tu vas avoir ça, puis ben, ça
j'avoue
va te pousser
que
à
Steam...
y aller.
J'avoue que Steam, il est peut-être un peu intimidant pour une personne qui connaît pas ça, là.
Il est surtout inconnu.
Comment ça, inconnu?
Je veux dire, n'importe quel gamer, un jour, va finir par connaître ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gamers qui connaissent pas ça. Parce que j'ai parlé à des gens, puis il y en a plein qui ont jamais entendu parler de Steam.
Mais l'avantage de Steam, c'est que maintenant, quand t'achètes un jeu sur PC en magasin, s'ils utilisent Steamworks, ce que tu as en fait dans ta boîte, c'est genre juste un code pour aller le télécharger. Ou il y a un CD, mais ça fait juste l'installer, puis après ça, ça installe le client Steam, puis ça tout se fait par le client Steam. Puis donc, ça fait c'est bien. En tout cas, moi, je trouvais que c'est un peu bizarre, mais j'avoue que c'est un bon point ce que tu disais, qu'ils veulent avoir juste une part de marché, puis être là pour être là. Ça peut être intéressant. Louis, qui était disparu, est en train de nous dire qu'il vient de réapparaître. Alors, on va faire une mini-pause, puis on va le reconnecter.
On va le ressusciter.
Ouais.
Resurrecting.
Phoenix Down. C'est quoi le bruit que ça fait, les Phoenix Down?
Ta-na-na-na.
Non, c'est ces îles-là.
Oui, alors, bonjour.
Oui, Louis est apparu, là.
Oui.
On est content.
Yay! Revenu du cyberespace. C'est ça.
De toi son aussi, t'as déchiré la réalité avec tes dents.
Ouais. En fait, je suis allé jouer deux tableaux de Batman, puis c'est tellement bon.
Pour vrai?
Ouais. C'est bon, je reviendrai la semaine prochaine. Ah, je parle de Arkham Asylum. Mais bon, je reviendrai la semaine prochaine.
Ah, OK. Je pensais que t'avais joué à Brave and the Bold.
Non, j'ai pas la machine.
Ah.
Donc, on va enchaîner avec la news suivante. C'est une news qui vient juste de sortir. Nintendo a décidé de ramener les démos sur WiiWare.
Là,
j'explique ça parce que je dis « ramener », ce qui peut poser sembler bizarre dans la tête de certains. Mm-hmm. L'année passée, à peu près à pareille date, Nintendo a dit « les démos s'en viennent sur WiiWare ». Il y a 5 démos qui sont sorties. Okay. Et après le jour de l'an, ils ont disparu.
Disparu, tu veux pas, juste,
toujours,
tu veux pas dire qu'il y en a juste pas eu plus. Tu veux dire qu'ils étaient là, puis après,
ils
étaient plus.
Ils sont partis.
Okay. C'est ça. Tu pouvais les downloader de novembre jusqu'à mi-janvier.
Okay.
Puis après ça, ils ont disparu. Il y avait 5 démos, ils ont toutes disparu. Là, Nintendo a annoncé cette année, on ramène les démos. Et encore une fois, ça va rouler de façon temporaire. Donc, et encore une fois, il n'y aura pas beaucoup de jeux. Il y a même 4 démos qui vont apparaître lundi prochain.
Qui sont pas les mêmes que ceux qu'on avait là.
Non. Et puis, l'idée c'est qu'à chaque lundi, donc à chaque jour que Nintendo amène les jeux sur WiiWare et sur DSiWare, ils vont amener des nouveaux démos à chaque lundi. Et l'idée c'est que les démos les plus populaires vont rester, puis les démos moins populaires vont s'en aller.
J'essaye de comprendre la logique derrière ça, puis ça me semble.
C'est ça!
Totalement.
Exactement.
Illogique, là.
C'est n'importe quoi. Mais tu sais, c'est comme. Ah, qu'est-ce que
c'est? C'est Nintendo, il n'y a pas d'autre explication.
C'est Nintendo.
Il y a certaines affaires qui font très bien, il y a certaines affaires qui ne comprennent pas.
Tout ce qui s'appelle distribution en ligne, ça semble juste pas avoir.
Distribue quoi?
C'est bon, j'ai compris ton point.
Non, mais c'est parce que moi, j'ai une Wii, là, fait que je sais pas de quoi tu parles.
Ouais,
t'as pas Steam?
Ah oui, c'est vrai. Ah,
Steam
là, je m'en rappelle,
Wii,
c'est quoi?
Ça serait pas pire. En tout cas,
wow, tu viens de dire deux mots incompatibles.
Ouais, hein?
Steam s'en vient sur PS3, supposé, mais on va voir rendu là.
Steamwork qui s'en vient sur PS3. Ça veut dire que les jeux vont se connaître. Steamwork, si je me trompe pas, c'est l'affaire pour genre les gérer les serveurs de multiplayer, puis les listes d'amis, puis tout ça.
OK.
Et bon, en tout cas, bref, démos qui vont sortir, ou qui sont probablement déjà sorties au moment où vous entendez ça, c'est BitTrip Fate, qui est excellent.
Ouais.
Il y a True Space.
Qui veut dire l'espace de mon trou.
Non, non, non. Non, True Space, à travers l'espace, patate. Il y a Jet Rocket et And Yet It Moves.
Super le fun aussi, mais un peu difficile.
Moi, je peux dire rapidement...
Tu parles de Yet It Moves?
And Yet It Moves, j'ai joué à l'ordinateur, puis j'haïs ça pour mourir.
Mais quand tu te trompes, là, ton bonhomme, il tombe, puis ça fait sprout.
J'haïs ça, puis je comprends pas comment ça se fait que c'est un hit, mais hey, il y a des affaires comme ça qu'il faut juste accepter. Là.
C'est quoi ça, déjà, And Yet It Moves? Ça me dit quoi?
C'est un jeu qui est comme tout en papier découpé.
Pis,
c'est un platformer que tu peux switcher la gravité dans les quatre directions.
C'est plutôt que tu peux tourner le tableau.
On fait pivoter le tableau, c'est ça.
Puis là, ben les murs sont rendus en dessous de tes pieds.
Ça marche mal, en tout cas.
C'est genre le level design est comme mal fait? Ou c'est genre le fait que tu meurs puis que tu recommences super loin?
Il y a un peu tout ça. Il y a un peu que quand tu switches, des fois c'est lent, puis la physique des fois est mal calibrée
c'est
pour
ça.
Certains
puzzles.
Il y a puzzles.
Il y a un décalage entre le moment où on switch puis le moment où le personnage se remet à bouger, puis ça fait que c'est complètement impossible de bien jauger son mouvement.
C'est difficile à comprendre, c'est ça. Des fois c'est difficile parce qu'il faut que là tu sautes par en avant, là tu switches, mais là faudrait que tu commences à avancer par en arrière là.
Exactement. Wow.
Fait que bref, il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime pas ça.
Puis c'est
ce que j'ai entendu, c'est que celui sur Wii est beaucoup mieux fait sur ces aspects-là, par exemple. Donc ça vaut la peine que vous ayez l'essayé. Puis je pense que ça se contrôle un peu avec la rotation de la manette. Mm-hmm. Fait que vous avez pas besoin de doigts supplémentaires pour tourner la carte.
En tout cas, moi, c'est sûr que je vais essayer toutes ces démos-là. Puis je vais probablement faire un petit résumé sur le blog, dire ceux qui sont hot puis ceux qui sont poche.
Oui, si t'as l'espace dans ton trou.
L'idée...
C'est ça. Le monde aime ça, les démos. Tu dis ça, tu vas aller les essayer direct. Pourquoi?
Pourquoi qu'ils vont les enlever? L'idée, c'est que si une fois que... Attends, checkez bien le pire. Le pire, c'est qu'une fois que tu l'as downloadé, s'il reste sur ta Wii, tu le gardes. Moi, j'ai encore les démos de l'année passée sur ma Wii. Puis ils traînent là, puis je fais rien avec. Mais juste parce que c'est comme rendu une rareté.
Ben oui.
C'est des collectors edition.
Ah, pis ça va être jusqu'à temps que t'aies plus de place parce que ton bureau va être rempli de photos.
Mais non, j'ai une carte SD là, dans ma Wii, là. Je peux mettre plein de démos.
Ah, ok, tu mets les démos sur ta carte.
Ben oui, voyons donc, je vais pas remplir mon menu Wii avec ça. Enfin bref.
Presque pas d'espace.
Allez checker sur votre Wii, il y a des démos, downloadez-les, puis vous pouvez leur donner des notes à ce qui paraît, donnez-leur des bonnes notes, si vous voulez qu'ils restent. En particulier BitTrip Fate, parce qu'il est vraiment bon.
En fait, c'est pas grave. Allez l'acheter, de toute façon.
Ouais, ben,
il y a pas besoin de démo, lui. Non, pas besoin de démo, ça.
On enchaîne avec une petite news intéressante, en tout cas, que je trouve. Kinect, que Microsoft avait annoncé comme étant... impiratable. 3 jours plus tard, avait été débarré. En fait, il y a même eu... ça a commencé, c'est un site qui a lancé qui a mis 1000$ en jeu au premier qui allait réussir à genre lire le contenu de Kinect. Après ça, un autre 1000$ pour le premier qui allait réussir à faire une librairie pour commencer à faire de la programmation avec. Bref, il y avait une série d'étapes, puis tu avais 1000$ à chaque étape. Et donc, comme je disais, en 3 jours et ensuite en une semaine ou deux, toutes les étapes ont été franchies. On est maintenant capable de lire le contenu des gyroscopes, de contrôler le moteur dans Kinect. On est capable de lire le contenu des images 3D et le contenu vidéo de la caméra. Bref, on est tous capables de tout faire. Microsoft est évidemment pas content du tout.
Mais ça, pourquoi ils ont dit que c'était impiratable? Je veux dire, tout le monde qui dit ça se fait pirater dans la semaine.
C'est vrai, hein?
Il faut pas le dire. Si vous le dites pas, ça va prendre un mois.
En tout cas, je sais pas quelle illusion qu'ils se font en se disant ça. C'est sûr qu'ils veulent garder le contrôle de leurs outils, je veux dire.
Mais c'est surtout, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, hey, si le monde, s'il est débarré, ça veut dire qu'il y a du monde qui vont acheter Kinect juste pour jouer avec.
C'est ce que je pense aussi. Puis en même temps, je pense que ça a convaincu des milliers de personnes, les images qui ont sorti, là.
Ouais, bon, ouais, c'est ça. Là c'est ça que je voulais dire. C'est que là, ce qu'on commence à avoir, c'est des images. J'en ai mis quelques-uns sur le blog.
J'ai mis,
entre autres, une vidéo d'un gars qui se filme, mais qui se filme avec le 3D. Donc, tu vois comment Kinect te perçoit. Tu peux tout voir ça.
Es-tu tout nu? C'est...
Non.
Ah, OK.
Non, ben tout ce que Kinect voit pas dans son champ de vision est représenté comme du noir.
Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre team de chercheurs qui ont utilisé Kinect. Ils ont monté ça sur un robot, une espèce de... En fait, leur robot ressemble à un Roomba, tu sais, les balayeuses
qui
se contrôlent tout seul. Et puis, ce que ça fait, c'est que le robot est capable de lire l'environnement 3D qui l'entoure. Et ça peut... Genre, j'ai mis aussi une vidéo sur le blog... c'est assez impressionnant, en fait. Ça reproduit la pièce en 3D comme rapidement à l'écran. Je veux dire, c'est super impressionnant, là.
Donc, on pourrait s'en servir pour faire du game design rapide avec des vrais décors.
Mm-hmm. Ah, ouais, peut-être.
Google pourrait mettre ça sur leur char.
Leur char pour Google Maps? Ouais. Street View, je veux dire?
Ouais.
Ouais, c'est toutes des affaires vraiment cool.
C'est des affaires qui ont intérêt à être, dans le fond, à la disponibilité de tous, tu sais.
Mais oui.
Il n'y a aucun intérêt, genre, dans le grand ordre des choses, à ce que Microsoft garde le monopole sur cette technologie-là. C'est juste... Il n'y a juste pas de raison.
En fait, Microsoft, il devrait vendre des kits pour qu'on puisse s'en servir à tout le monde.
Ouais.
Ils feraient un gros, gros, gros cash-in s'ils faisaient ça maintenant.
C'est ça leur but. Puis en fait, leur but, c'est vraiment genre de mettre le plus de Xbox possible dans le plus de maisons possible. Puis si c'est Kinect que ça prend pour faire ça, et visiblement, ça a l'air de fonctionner pas mal bien pour eux autres.
Un million de ventes jusqu'à présent.
Ouais, c'est ça. Ils sont déjà rendus à 1 million. Fait que leur objectif de 5 millions, que je trouvais ridicule et inatteignable au début quand on en avait parlé la première fois... Ah, ça se pourrait peut-être. Noël s'en vient.
Comparé au Move, qui a absolument rien pour lui, puis qu'effectivement, ça se traduit pas en des ventes...
Le Move en a vendu à peu près autant, mais personne n'en parle. C'est ça qui est bizarre. Et j'ai une petite théorie là-dessus. J'ai une petite théorie là-dessus, parce que Move est plus gamer, alors que Kinect est plus casual.
Moi, je dis que... Move va convaincre personne qui n'a pas déjà un PlayStation de se le procurer.
C'est
ça. Kinect, c'est... Kinect vend des consoles.
Exactement. Et ça, je suis convaincu de ça.
Puis moi, comme j'ai dit l'autre jour, moi, j'ai vu des jeux avec Move que ça te prenait deux manettes Move.
Ouais.
Fait que nécessairement, ils en ont vendu plus parce qu'ils sont moins chers, puis ça t'en prend deux.
Mais la barrière est bien quand même juste plus élevée. Là. Je vous ai deux, mais en tout cas...
Ouais, mais ça te prend une seule caméra pour toute ta maison, tandis que ça peut te prendre peut-être 3-4 manettes avec Move. Là. Mm-hmm.
Donc, on va continuer à suivre ça. Moi, c'est un sujet que je trouve plutôt intéressant de voir genre qu'est-ce que les gens vont commencer à pouvoir développer maintenant que Kinect est rendu dans les mains de tout le monde. Je veux dire, juste le petit vidéo du robot, c'était déjà impressionnant. On va voir qu'est-ce qui s'en vient ensuite.
Nice.
Et donc... C'est maintenant le moment tant attendu de la NewsCon pour
vraiment
finir.
Ça.
Il faut vraiment...
Snake! La NewsCon pour finir. Ou comment Future Shop fait pour révéler à tout le monde qu'un jeu de merde est un jeu de merde.
Voyons donc.
On parle pas de Sonic, hein, là.
Non, je te promets qu'on parlera pas de Sonic.
C'est gentil de ta part. Pour
Future
une fois.
Future Shop utilise des gros stickers qu'ils mettent sur les boîtes de jeux pour mettre le prix dessus. Et donc, étant donné que le sticker est très gros, ça cache une partie de la pochette. Et donc, dans le cas d'un certain jeu qui s'appelle, et je cite, Pool Party... Mais quand le gros sticker cache le L, ça fait « Poo Party ». Est-ce qu'on a besoin de traduire?
D'accord.
Je pense qu'on peut faire le reste du travail, merci.
Alors, c'est un jeu de poule. La pochette, il faudrait quasiment que j'en mette un lien sur le blog, parce que la pochette, c'est genre une photo de gens qui ont de l'air comme... Genre, on est hot, on joue du poule, mais genre, qu'est-ce qu'on fait à être pris en photo pour une boîte de jeu? On va donc se prendre une petite pause et méditer sur Poo Party. Et c'est ça.
Great Mighty Poo aimerait ça jouer à ça. Hein?
Ah, c'est sûr! On vient donc d'écouter la toune High Rise tirée de la soundtrack du jeu Light avec deux I. C'est L-I-I-G-H-T.
Ça se prononce-tu Light?
Je sais pas, mais c'est un jeu de WiiWare qui, oh
ben
va sortir
Light.
Qui va sortir très prochainement. Donc, oui égale, on met deux I partout. Là.
Ouais. Mais ils ont quand même pas fait Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi.
Non, quoi? Mais c'est quoi? C'est Monster Hunter 3 qu'ils ont fait?
Oh my God.
Ouais, mais il n'y a pas deux I.
Non, mais ouais, en tout cas.
Mais c'est parce qu'ils sont partis là-dessus. Là, Squeenix, ils sortent un jeu, genre, c'est 12, mais ils veulent qu'on prononce ça duodécim.
Quoi?
Ils sortent un jeu, là, c'est... voyons. Dissidia, là, je pense, où est-ce que plein de bonhommes de Final Fantasy vont se battre les uns contre les autres, puis il s'appelle Duodécim. Sauf que c'est comme un chiffre écrit en romain, puis on est censé le prononcer comme ça, là, selon eux.
Divi.
On s'entend-tu que Squeenix, à chaque jeu qui sort, ils vont tout le temps y donner un nom le plus à coucher dehors possible? Je veux dire, comment il s'appelait le dernier... tu sais, le jeu avec les bonhommes de Disney, là?
Lui qui avait comme 358 genre... divisé par 2, là.
Ouais, genre...
The Kingdom Hearts, ce genre, 358 ce divisé là. Par 2, tu sais.
C'est ça.
Je sais pas.
En tout cas, bref, le Light, c'est un jeu de WiiWare qui a été annoncé depuis très longtemps et que j'étais sûr qu'il était cancellé ou quoi que ce soit, mais là, ils ont annoncé récemment que le jeu était fini, qu'ils venaient de l'envoyer à Nintendo. Là, c'est juste de l'approval. Fait que ça devrait sortir peut-être cette année ou au début de l'année prochaine.
OK.
Et si vous aimez la musique, sur le, je vais mettre un lien sur le blog. Il y a 3 tunes qu'on peut télécharger gratis. Et là, on est rendu... Ouais, ça j'ai dit. On est rendu à la table ronde. Cette
et non
semaine,
pas triangle.
Non.
Parce qu'on est quatre.
Sinon, ce serait comme la Triforce, puis ça marcherait pas, là. Alors, nous quatre chevaliers de la table ronde, nous allons parler cette semaine de critiques de jeux vidéo. On parle ici de critiques, pas dans le sens que moi je l'ai fait, c'est-à-dire juste chialer, chialer, chialer.
Ou pas dans le sens de Narf est un critique de jeu.
Non, parce que ça on peut dire troll.
Dans le sens de une critique.
Mais bien de critiques dans le sens plus comme analyse. On va commencer...
Louis, ben écoute, je peux faire un premier... Je peux rouvrir ça. Écoute,
l'introduction,
c'est ça. Je sais pas quelle direction notre discussion va prendre au cours de la probablement demi-heure qui s'en vient, mais ce que je peux dire, c'est que d'aussi loin que je me souvienne...
Tu voulais dire 2 heures.
Fait que d'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire depuis ma petite enfance, depuis que j'avais 7-8 ans, c'est-à-dire depuis le temps que je lis le magazine Nintendo Power, je ne le lis plus maintenant, ben je me souviens que je lisais des critiques de jeux et je prenais en compte les notes qui leur étaient données. Puis ça me dirigeait un petit peu dans les affaires que je décidais de jouer.
Tu faisais vraiment tes choix là-dessus, là.
En fait, non. Mais je les lisais et j'étais toujours curieux de savoir puis de comparer. Ah, tel jeu est comme... Ah, il est mieux noté que l'autre sur tel aspect. Puis voir les distinctions qui étaient établies entre les uns. J'étais intéressé par ça.
Okay. Parce qu'à cette époque-là, ils donnaient vraiment des notes, genre les graphiques ont une note, le son a une note,
jusqu'en
la durée
peut-être,
de vie a une note.
Jusqu'en peut-être 2000, je veux dire, en général.
2006, ouais. GameSpot a arrêté de faire ça.
C'est ça,
il y a un moment... Mais IGN le fait encore, je pense.
Ouais.
Ouais.
Il y a un moment où ce que le côté séparer les notes en plusieurs aspects, comme le gameplay, le visuel, le son, ça a diminué, c'est devenu des notes un peu plus générales. Des fois, les décimales, comme par exemple 0.7, 0.6, ils ont décidé d'arrondir ça à 0.0, 0.5. Puis,
ou même de juste donner un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Ou bien en 4 étoiles, 3 étoiles. C'est curieux parce que c'est devenu de moins en moins méticuleux, mais en même temps, ça s'est un peu... je sais pas trop comment...
C'est devenu meilleur.
C'est devenu mieux.
C'est devenu mieux, oui, on peut dire ça.
C'est amélioré.
Je sais pas trop si je m'en allais avec ça, mais je sais que c'est devenu moins technique. C'est devenu un petit peu plus de comme considérer l'ensemble sur les parties. Ça,
parce
c'est
l'idée,
le topo
c'est
en général.
Je peux continuer
ouais,
là-dessus.
Ouais, vas-y.
L'idée, c'est que les notes avant, c'était comme si on voulait trier les jeux de 0 à 100 en passant par toutes les décimales.
Ouais.
Comme si on voulait genre les organiser sur une liste puis que chaque jeu avait une note unique. Puis c'est pour d'où l'intérêt de mettre des virgules... des chiffres à virgule pour avoir plus de précision. Versus maintenant, c'est plus comme genre, regarde là, le jeu il est bon, ou regarde là, le jeu il est poche, ou ben il est ordinaire,
ou ben il est poche mais il y a telle affaire qu'il sauve, ou ben il est bon mais il y a telle affaire qu'il dompe en même temps.
Bon, ça tu vois, ça c'est pas la même chose. Là on passe d'une note à une critique.
C'est
genre,
ça.
La critique donne une note, puis après ça, la critique elle-même, le texte, va te donner un autre aspect. Puis ça, je trouve ça vraiment... Ben, en tout cas, oui.
Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est souvent on donnait des points, mettons, sur graphique, gameplay, musique. Puis à la fin, il y avait genre un point spécial, comme quelque chose qui ressortait de ce jeu-là. Puis on donnait des points de plus pour, je sais pas, facteur awesome, parce que ce jeu-là fait telle et telle et telle chose que les autres font pas.
Ouais. C'est comme c'était comme la note supplémentaire pour équilibrer le tout, genre. C'est
Ouais. Pour faire la moyenne, même si IGN disent tout le temps note globale, ceci n'est pas une moyenne.
Ouais.
Moi ce que je pense c'est que ça a commencé parce que genre les gamers, je pense qu'on aime ça les chiffres.
Ouais, il y a comme
les RPG, c'est quoi? C'est des chiffres qui deviennent de plus en plus gros là. On aime ça les chiffres.
Quand on joue, c'est une activité technique, tu sais. Fait que c'est un peu normal qu'on ait un rapport d'évaluation technique à ces affaires-là, mais c'est pas la seule manière de considérer ça.
Ben, j'ai été silencieux jusqu'à présent, mais laissez-moi noter une opinion.
Ouais, fine.
C'est que les jeux, c'est des objets culturels. L'expérience du jeu vidéo en tant qu'objet culturel ou pour certains objets d'art se fait de manière subjective.
Oui.
Ouais. C'est pas un bien de consommation comme...
Un lave-vaisselle.
Le journal.
C'est ça. Non, pas journal. Un auto.
Ben, ouais.
Que tu peux calculer précisément. Tu peux coter comme les pièces. Tu peux juger de la performance que ça va avoir. Mm-hmm. Matériellement. Les jeux vidéo, comme les films, comme les livres, tu peux pas juger de l'expérience qu'une personne va en avoir parce que c'est nécessairement personnel.
Ouais.
Écoute, ça fait partie.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une attitude qui est importante de développer. Je parle parmi les gamers, c'est-à-dire d'être conscient de cet élément de subjectivité-là. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui conçoivent eux-mêmes, c'est-à-dire au moment de la conception, leurs jeux comme des produits de consommation qui sont décomposables en partie comme ça. Fait que...
Tu as tout à fait raison.
Je peux-tu amener un point
ici? Vas-y.
Metacritic, vous connaissez tout le site,
Bien sûr.
Qui vont checker les notes. Il y a bien des studios dont le producteur va donner plus d'argent ou moins d'argent en fonction de la note.
Oui, tout à fait.
Si le jeu tape un 80%, tous les employés ont un bonus.
Ça fait que je suis d'accord avec l'idéal que tu proposes, Gab, mais il y a comme du côté créatif, c'est comme, ce serait comme attribuer une espèce de mérite à quelque chose qui n'est pas nécessairement recherché de leur part, même si c'est quelque chose qui devrait l'être, selon moi.
Mm-hmm.
Non, mais,
je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Je sais que, tu sais, on parle du point de vue du développeur, mais quand on parle du point de vue du critique...
Mm-hmm. Ouais.
C'est... On y est ça souvent, nous autres, quand on n'est pas dans le podcast, parce que, tu sais, on se parle à l'extérieur du podcast.
Mm-hmm.
Que,
ah oui, ouais.
On donne à ce jeu un 8.5, 0.6, 0.7. C'est totalement absurde.
Ouais. Mais c'est surtout arbitraire, tu sais. Puis en même temps, quand on le dit, on reconnaît que c'est relatif.
Il y a aussi le fait de comme décomposer un jeu dans ses parties primaires, comme le son puis le graphisme. Mais tu peux pas juger du mérite d'un jeu ou de l'expérience que tu vas avoir tout simplement par le graphisme ou le son, ou le fait que les contrôles ils répondent d'une telle manière au lieu d'une autre.
Ouais. Ça serait comme si les critiques de films se mettaient à donner des notes pour le son, puis des notes pour la qualité des images, puis des lentilles que la caméra utilisait.
Ouais.
C'est ça. Ou ce qui veut pas dire. Livre qui parle juste comme 7.5 pour les adverbes, tu sais.
Ouais.
ça
veut pas dire qu'il va pas pouvoir parler des adverbes dans son article ou peu importe.
C'est ça.
Mais il va pas lui donner une note. Il va le décomposer en partie, mais il va les ramener au tout puis voir qu'est-ce que ça apporte au lieu de juste avoir juste sa valeur à cet aspect-là. T'sais.
J'amène un autre point ici. Ouais. On parle de genre d'écrire un texte et de au lieu de faire une note. Le problème, c'est qu'il y a bien des sites. Les gamers n'aiment pas lire le texte. Mm-hmm. Les sites de nouvelles vont tout te le dire. Tous les journalistes qui écrivent des critiques, ils disent. Les joueurs lisent pas, ils font juste checker la note.
Ouais, ils vont sur des agrégateurs de notes comme Metacritic. Mm-hmm.
Ils vont sur Metacritic puis ils vont checker la note globale parce que c'est encore une meilleure plus meilleure note.
Ouais.
Puis genre on s'en fout du texte. Ouais. Fait que c'est oui, on dit faut le souligner dans le texte, puis là après ça, ouais, mais le monde le lise pas.
Ce que je te dirais en ce qui me concerne. Quand un jeu sort, mettons, je vais aller checker les chiffres, je vais checker les icônes qui indiquent « Ah, celui-là, il y a du wow factor, celui-là, il y a des bonnes commandes, la bonne technique. » C'est ensuite que je vais revenir sur le texte, puis comme m'en servir pour un petit peu enrichir mon appréciation. Je sais pas vous autres, quelle approche vous avez.
Moi, en fait, je fais ça souvent après.
Ben, c'est ça, je dis, une fois que j'ai eu une expérience personnelle avec
la chose. Mais je veux dire, checker la note, je vais faire ça après aussi.
Ok.
Je me fie généralement pas aux critiques avant d'acheter quelque chose parce que souvent ils seront pas de mon avis.
Mm-hmm.
Ou ben ça va prendre du temps avant que j'en trouve un qui est de mon avis là. Ouais.
Bon.
T'essayes de ruiner ma crédibilité, mais je veux dire, c'est juste la tienne que tu ruines.
Ah, je t'ai cassé.
Disons que.
Ça, ouais.
Je voulais juste rajouter un point avant d'aller
mais
sur
aussi.
D'aller là.
Ouais, ça, je vais juste dire que on va parler, mettons, de gameplay puis comment le jeu il se joue. Mm-hmm. Des contrôles. Tu regardes les contrôles dans Resident Evil, les premiers, là. Puis, c'est des, ton personnage se contrôle comme un tank. Ça se contrôle tout croche. Okay. C'est pas des bons contrôles proprement dit. C'est pas...
Objectivement, non. C'est
effectivement. Objectivement. Sauf que ça crée une tension. Ça fait que t'es obligé d'interagir avec l'espace d'une manière extrêmement délibérée.
Ouais, d'une manière spécifique. Puis ça donne comme une identité à Resident Evil.
Ces contrôles-là, ils ont été faits pour une raison particulière.
Ouais, une raison de design.
Ils te font ressentir des choses à travers comme des contrôles qui sont comme pas ordinaires, pas conformes. Ouais. Et tu peux pas parler de ça quand tu parles de contrôle 8.5.
Ouais, c'est vrai.
On a dit la même chose de Shadow of the Colossus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que les contrôles sont tout croche là-dedans, mais non. Hey! Ils sont placés pour fonctionner dans le concept du jeu.
Mm-hmm. Voyons donc, qui peut avoir dit ça? Ben, ça se contrôle super bien.
Premièrement, j'en ai lu plein qui aimaient pas comment ça fonctionnait. Qu'il y a des moments où que ça accroche puis ça va pas comme tu veux. Mais je suis capable de voir au-delà de ça les décisions de design qui ont pu y mener, de pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça, puis y accorder quand même un mérite.
Des fois,
c'est impeccable.
Des fois, par exemple, ton bouton, il va être bien placé pour grimper, mais le même bouton va être mal placé pour le combat. C'est des affaires que tu peux pas contrôler même.
Exactement. Bon.
Est-ce que vous avez déjà fait ça? Genre, moi, je faisais ça souvent, en particulier pour les petits jeux téléchargeables.
Okay.
Sur DSiWare ou sur WiiWare. Souvent, je vais sur IGN, là. Là, il y a une grosse liste, puis là, je fais comme, OK, il y en a des millions, je vais pas commencer à lire toutes les critiques. Là, je vais en voir en haut, je trier par note. Puis là, je m'en vais lire tous ceux qui ont 10, puis je descends. Mm-hmm. Puis là, après ça, je fais comme, ah, ce jeu-là a de l'air cool. Puis après ça, je vais l'acheter.
Mon rapport aux notes est différent, c'est-à-dire que comme j'ai aimé ça, genre souvent, au fil des années, j'ai fait ça, remonter, ben mettons, aller sur un site, sortir la liste des jeux des critiques de PlayStation 2, mettons, puis de mettre ça comme en ordre de notes, puis de voir c'est quoi qui ressort, puis ça me permet de voir historiquement, si on veut, mettons en 2002, c'était quoi qui était au top, puis c'était quoi les critères qui étaient appliqués au jeu de ce temps-là, puis de voir comment, au fil des années, les critères ils se modifient, en fait. Ça, c'est mon rapport personnel aux notes de jeu, comme un peu comme... C'est une espèce de document de son temps en même temps. Je sais pas si vous me suivez.
Ouais,
c'est... Genre, exemple, Grand Theft Auto 3, 9.6, tu lis la patente, tu vois pourquoi, à ce moment-là, ce jeu-là avait 9.6.
Alors
qu'aujourd'hui, ça serait tout simplement... On y appliquerait un autre filtre, si on veut.
Mais moi, j'ai été justement voir une critique de 2002 pour vous parler de Sonic tantôt, voir qu'est-ce qu'on en pensait.
Ouais, c'est ça, mettons, Sonic Adventure, c'était sorti... Ça avait du succès.
C'est ça, 2001-2002.
C'était une grosse sortie. C'était très populaire et très bon à l'époque, selon les critères de l'époque. Mm-hmm. C'était gros là, comme jeu quand même. Genre, je le niaise depuis tantôt, mais je suis capable de reconnaître que c'était une grosse affaire.
Mais comme j'ai dit aussi, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait n'est pas à la hauteur de ce jeu-là. Mm-hmm. En tout cas.
Mais j'avoue, donc c'est ça, pour revenir aux chiffres, j'avoue que les chiffres peuvent être utiles dans la mesure où pour trier, genre, pour savoir, genre, OK, c'est quoi les jeux qui, genre, qui... OK, mettons, un autre exemple que je pourrais donner, c'est que là, moi, je prévois m'acheter un Xbox bientôt, là, quand il va y avoir des spéciaux dans le temps de Noël. Là. Ce que je risque de faire à un moment donné, c'est d'aller sur un site de jeux et de pogner tous les jeux de 360, puis les trier par note, puis regarder qu'est-ce qui sort au top.
Puis qu'est-ce que tu dois essayer, c'est quoi les musts, tu sais?
Tu peux les sortir par nombre de téléchargements aussi, là. C'est une autre vision de la chose.
Ouais, ça c'est une autre façon.
Pour les trucs en download, ouais. Mais je parlais plus même pour les gros jeux, là. Mais en même temps, je dis ça, puis en même temps, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Non, tu feras pas ça. Quand tu vas t'acheter un Xbox, tu vas demander au monde que tu connais, genre, c'est quoi les bons jeux? » Fait que là, on parle de critiques, là, j'en reviens aux critiques plus qu'aux notes. Ça veut dire que moi, quand je vais vouloir acheter des jeux, je risque de demander à du monde. Là, ça veut dire que les critiques deviennent moins importantes que l'opinion de mes amis.
Mais
l'opinion des gens que je connais.
Est-ce qu'une chose que j'ai vue, surtout avec Facebook, c'est qu'un jeu, il n'est pas obligé d'être le fun. L'important, c'est qu'il fasse un bon sujet de discussion, des fois.
Mm-hmm. Ouais.
qu'est-ce qui nous a amené à jouer à des bons jeux, c'est que c'est ça qu'on avait dans notre enfance, puis on en parlait avec nos petits amis à l'école. Je pense que c'est surtout ça. Puis là, peut-être nos parents, ils ont des Farmville, puis tout ça, puis ils vont se jaser de tout ça entre eux, mais ça leur fait leur sujet de discussion, puis c'est pour ça qu'ils jouent à ça.
C'est ça. Là, c'est quand le moment, quand le jeu devient plus qu'une expérience comme personnelle, là, ça devient quelque chose qu'on
partage. Ça devient un élément social, comme un élément culturel, de genre de discussion sociale.
Puis dans ces moments-là, le rapport critique, il est juste différent. Ça te fait...
Ouais, les critiques, ça colle plus, là. Ça n'a aucune importance, en fait.
Et ça, c'est un point qui ressort. Les critiques sont là probablement plus pour les gamers que les casuals. Les casuals vont jamais aller lire une critique de jeu, sauf peut-être le petit encore qu'il va avoir dans El Québec à propos de la Wii. Parce que je me souviens qu'il y en avait.
Ouais, ouais.
Tu vois, tu dis que tu vas t'acheter un Xbox. Tu vas probablement filtrer un peu les critiques comme ça. Mais là, on parle des jeux comme des jeux commerciaux qui sont sortis en magasin, tout ça. Mais il y en a comme ça qui existent. Il y a des jeux qui sont simplement pas critiqués de cette façon-là. Puis moi, personnellement, mon moment où mon rapport à la critique de jeu a changé, c'est quand je me suis mis à jouer à des jeux indépendants, puis que c'était des jeux qui duraient une dizaine de minutes, qui n'étaient pas notés de façon quelconque, que j'allais pas me procurer, que j'allais simplement essayer, puis me faire ma propre opinion, tu sais.
Puis qu'il y avait pas, qu'il y a pas non plus les critères
exactement.
Que les gros jeux vont avoir.
D'une certaine manière, il y en avait une critique. La critique, c'était genre l'ami qui t'a envoyé un email puis qui t'a dit « Essaye ça, c'est awesome! »
C'est ça, puis elle se fait live.
Tu l'as, ta critique, elle est là.
Elle se fait sur le site où tu l'as trouvé. Elle se fait comme entre les gens avec qui tu vas le partager.
Ouais, dans les
c'est
forums.
Vraiment un rapport différent, tu sais. Puis comme tu dis, Gab, ils sont créés selon d'autres critères, selon d'autres objectifs créatifs. Puis là,
c'est
tu
ça,
peux te mettre à les...
Il n'y a personne qui dit que certains jeux indépendants sont pas assez longs parce qu'ils durent seulement que 8 heures.
Ça. C'est ça. Ça devient comme ses propres facteurs à lui, tu sais.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc la critique doit s'adapter en fonction de l'objet évalué. Si c'est un gros jeu, si c'est un petit jeu. En fonction aussi, j'imagine, de genre l'historique de ce que le studio ou de ce que la personne a fait avant. Tantôt, tu parlais de Dinner Date, puis je trouvais ça intéressant parce que tu as dit que c'était son premier jeu au gars.
Puis justement...
C'est sûr que ça change tout que si c'était son 20e.
C'est son premier à lui, il vient après d'autres choses dans le même genre qui se sont faites. Fait que là, l'intérêt, ça devient de comparer avec ces autres choses-là. Puis la prochaine fois qu'il va sortir quelque chose, on va pouvoir ramener à celle-là, puis juste tisser des liens, puis voir la continuité, ou au contraire, la différence, tu sais. Puis ça, c'est pas possible. Parce que pas aussi facile à faire dans le domaine de la critique, disons, de consommateur. T'sais. La critique technique, si on veut. Puis c'est je vous laisse continuer.
OK. Moi, dans la critique technique, je vois aussi beaucoup de facteurs qui sont vraiment comme aberrants ou inutiles. Tu sais, comme on pourrait juger des graphiques. J'ai dit une fois, quand ta machine n'est pas capable de rendre un environnement réaliste, tout ce que tu as à faire, c'est lui donner un style. Mm-hmm. La critique, souvent, va pas couvrir ça. Elle va dire les textures ont été travaillées, les personnages sont bien faits. C'est pas nécessairement le style qui va ressortir. C'est pas l'esthétique.
C'est quelque chose que j'ai commencé à observer que je trouve que c'est de plus en plus fréquent, en fait. Je trouve qu'il y a une
effectivement.
Espèce... Il y a une appréciation. C'est ça. Moi, IGN, je lis pas ça, mais mon site, disons...
Ils sont rendus pas si pires. Ils s'améliorent.
Écoute, le site, disons, populaire que je check, c'est GameSpot. Puis je trouve qu'au fil des années, leur appréciation esthétique des choses fait juste comme s'élargir... faire de plus en plus de nuances, puis juste considérer l'ensemble au lieu des petits détails, puis d'accrocher sur des niaiseries. Puis ça, c'est fun à voir.
Puis sur la longueur aussi, on est en train d'en apprendre beaucoup, parce que c'est quoi la longueur, en fait, dans un jeu? Tout d'un coup que je fais mon jeu, puis mon personnage peut pas courir, ben mon jeu dure 160 heures, mais s'il peut courir, il en dure 80. C'est parce que peut-être que le jeu est rempli de buffers, qu'on appelle, des séquences où c'est très long, puis où dans le fond, on fait pas grand-chose, même si on se déplace.
La critique a bien de la misère avec des affaires comme ça.
Sujet,
parce que, genre, si le jeu dure pas assez longtemps,
à la fin des années 90,
la note devient bonne.
À la fin des années 90, le shooter moyen durait au-delà de 18 heures, souvent 20 heures. Et quand les jeux comme sont mettent plus complexes et plus difficiles à faire, puis ont commencé à durer 12 heures... Le monde a commencé à donner des moins bonnes notes, puis à chialer sur le fait que c'était pas des jeux qui étaient assez longs.
Les valeurs étaient en train de changer.
On y retourne maintenant pour jouer à ces jeux-là qui duraient 20 heures. C'est bourré de filler. C'est ouais. long. Oh, c'est oui. plate.
Et moi, ce que je peux dire sur, mettons, Metroid Other M, que j'ai remarqué, c'est que dans le fond, si je compare ça à une carte de Metroid Prime, la carte des tableaux puis tout ça, c'est pratiquement la même grosseur. Dans Metroid Prime, on court pas vite. C'est, ouais. c'est juste là, le, dans le fond, tu traverses pas les salles rapidement.
C'est juste une petite affaire qui a changé, ouais.
Je veux dire, ils sont peut-être un petit peu plus grosses, mais c'est long à traverser. T'es toujours en déplacement, puis tu cours pas vite, tandis qu'Other M, tout est branché ensemble pour que tu fasses toute ton affaire dans l'ordre, puis les bonnes portes sont ouvertes comme il faut au bon moment. Là.
Mm-hmm. Un autre qui va vite, puis qui est justement représentatif de ce qu'on est en train de parler, c'est Vanquish, dont on parlait l'autre semaine, qui est un ouais. jeu qui dure en moyenne 4 ou 5 heures, et qui a pourtant reçu des notes assez fortes, puis la longueur est apparue comme un facteur négatif à peu près nulle part. Ça veut dire qu'il est rendu à une espèce d'acceptation de ça, puis juste comme d'une expérience plus dense, un peu plus concentrée, puis c'est bien.
Ouais, ce que Nerf dit souvent, c'est au pire, si t'as aimé ça, tu rejoues, ou bien ouais. tu ben joues oui. pour les points. Tu...
Ben oui!
Il y a des films que tu relis, des livres que tu relis, pourquoi pas jouer à un jeu?
Ouais. Exactement.
Portal, je l'ai passé à peu près au-dessus de 5-6 fois.
Ouais, t'as passé 40
entre
heures.
Entre autres pour les achievements. Ouais, j'ai checké ça dans Steam l'autre fois. J'ai ouais. vu 40 heures. J'ai fait oh boy! Je l'ai aimé.
Non, oui. Il n'y avait pas besoin d'être plus long.
Que je rejoue tout le temps. Puis souvent, genre, c'est, plus le jeu est court, plus t'as envie d'y rejouer souvent. Parce que tu dis, genre, je vais être capable de le faire au complet. C'est comme, c'est comme quand tu t'installes, tu regardes un film, tu te dis pas, genre, je vais commencer à écouter le film, puis là, demain, je vais en écouter un autre petit bout, puis après-demain, je vais en écouter encore un autre petit bout, puis je vais le finir dans une semaine. C'est non, t'écoutes un film, tu l'écoutes au complet. Pourquoi que les jeux, tu pourrais pas l'écouter au complet?
Ben, c'est parce que ça fonctionne quand même différemment. Là.
Les jeux aussi sont un peu plus longs, puis ils ont un respect du fait qu'on a une vie, là.
Et sont surtout plus chers. Entre autres, oui. À 60$, si ça durait la même durée qu'un jeu, qu'un film, ça marcherait pas.
Mais c'est vrai qu'en même temps, ça serait frustrant parce que tu fais. C'est pas juste le temps que ça m'a pris puis l'expérience, mais c'est comme j'ai acheté ça puis j'aurais aimé ça en profiter, mais j'ai pas eu le temps.
Là, on parle d'argent. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui prennent le prix du jeu en considération?
Ben, écoute, Louis en a parlé tantôt.
J'en parlais tantôt. Je pense que c'est très discutable. Je pense qu'il y a des moments où c'est évident qu'on s'est fait un petit peu arnaquer. Puis d'autres fois, c'est beaucoup plus discutable. Puis ouais. Je sais pas, je pense que c'est un sujet... Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait passer pas mal de temps dessus, en fait. Je sais pas, ouais. vous autres, là.
Je voulais noter les critiques sur le site de Kotaku. Mm-hmm. J'aime pas ça faire l'apologie d'un site, mais Kotaku, ils ont changé leur manière de faire des critiques récemment.
Avec les plus et les moins, c'est ça, hein?
Ils en ont plus, ils ont changé non. ça.
Ah, OK.
Ils ont encore changé? Ouais. J'aimais ça quand même, leur façon de faire avant. Ouais, qu'est-ce qu'ils font maintenant?
Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils adressent, ils font des textes, puis ils commencent un texte, ils font un court résumé, en disant à qui le jeu s'adresse.
OK.
Et... pourquoi toi tu devrais comme t'intéresser à ce jeu? Why should I care? Et après ça ils déclinent.
Ok, oh! Ouais, c'est bon ça.
Ils font des paragraphes. Mm-hmm. Et à chaque paragraphe ils adressent quelque chose. Puis après ça, comme le paragraphe qui s'ensuit pose une question comme si c'était une conversation. Donc le jeu est une telle longueur. Puis là, comme le paragraphe, il adresse ça en comme parlant un peu d'autre chose. Puis il continue toujours de décliner ça, c'est pas une question de points, c'est pas une question de qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, c'est comme une conversation qui dit
ouais.
à qui c'est le jeu.
Ça revient un peu à l'élément social.
C'est ça, c'est comme une manière de prendre en compte que ben il y a comme quand on est en contact avec quelque chose de même, on c'est comme une conversation. Quand on joue à quelque chose, en fait, il y a des facteurs en jeu qui sont au-delà de juste la technique, là.
Moi, ce que
j'ai aussi, il y a des affaires qui vont écœurer vraiment certaines personnes, puis qui vont pas déranger certaines choses. Donc, quand tu dis qu'ils commencent leur critique en genre à qui ça s'adresse, ben, je trouve que c'est un point
c'est
vraiment
parfait,
intéressant.
C'est comme relativiser le fait que l'appréciation, ça dépend des gens. T'sais.
Ouais, puis c'est pas mal les seules critiques que je lis au complet, parce que c'est pas super long non plus.
C'est vrai.
Puis ça se lit comme très
bien.
Si jamais comme tu passes un point qui t'intéresse pas, comme tu peux le sauter, puis à la fin, tu as toujours comme un résumé, ouais, t'as bottom line.
Ouais.
Bottom line.
Il m'impressionne Kotaku ces temps-ci.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est que des fois, tu vas lire une critique, puis tu fais, hey, il se trompe complètement.
Ouais.
Puis t'as le droit, puis peut-être que ce que tu penses est tout à fait valide, autant que qu'est-ce qu'il a dit, c'est juste qu'il a ses raisons, puis c'est ça. Ce que la critique à numéro offre pas.
Souvent, c'est plus intéressant de comme essayer un jeu ou ben juste donner une chance à quelque chose quand il n'y a pas de consensus, puis de pouvoir juste comme inscrire sa propre opinion dans
la chose. Que le fait, pensez-vous que le fait que de plus en plus il y a des démos pour les jeux, ça va changer justement notre rapport avec la critique, que les critiques vont devenir encore moins importantes?
Probablement,
mais
c'est pas nouveau là, en fait.
Mais il y a des bêtas. Les bêtas sur console qui sont nouveaux.
Les démos, est-ce que ça peut changer justement notre... que ça devient comme...
Ça peut...
Fais ta propre critique en essayant le démo.
Ça peut créer tes propres attentes, en fait. Ça fait que genre... Ça crée des attentes, puis indépendamment de ce que les autres disent, tu vas pouvoir avoir le goût d'acheter le jeu pour voir si tu veux les confirmer, pour les mettre à l'épreuve un peu, voir comment ils se sont débrouillés. Moi, ça m'a fait ça avec Enslaved récemment.
Je pense pas, moi, que ça va changer grand-chose, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de démos qui sont pas vraiment représentatifs du jeu. Ouais, peut-être que tu vas avoir un premier tableau, puis le premier tableau est hallucinant, super le fun. Mm-hmm. Puis après ça, t'arrives, puis hein, il y avait ça, puis finalement, j'aime pas ça. Tout d'un coup, ça devient un RTS.
Brutal Legend.
Ouais. Je pense à Sonic aussi. Celui que j'ai parlé tantôt, t'avais le démo, tu faisais un beau tableau de course. Là, tu fais, ben, ça va être ça tout le jeu. Mm-hmm. Puis là, quand tu l'achetais, ben non, t'avais des guns, des plein d'affaires.
Mané, on sera plus dupes, en fait, du fait que, effectivement, le premier tableau n'est pas nécessairement représentatif. T'sais. On peut se faire avoir aussi facilement.
Je pense que pour ça, les revues sont encore importantes. Là.
Ouais.
Ben, ça dépend. Si le démo est bien fait, normalement, il devrait être représentatif.
Mais tu le sais pas, ça.
Tu sais pas,
que le démo. Ouais. Ouais. C'est sûr que l'opinion de quelqu'un qui a fini le jeu. Et peut être intéressante pour ça.
Moi, juste revenir un petit peu sur la question du consensus. Récemment, un jeu que j'ai acheté parce que j'ai acheté le jeu précisément Mafia 2. Genre, jusqu'au dernier jour, j'hésitais comme à est-ce que je l'achète, whatever. Mais les critiques étaient tellement divergentes. Puis je parle littéralement du 40 sur 100 au.
D'habitude, c'est bon.
90 signe, et 95.
Ouais, c'est ce que je pense aussi.
Puis je me suis dit, hey! Ça veut dire que les gens qui ont critiqué celui-là, ils cherchaient des affaires totalement différentes du même jeu, puis qui ont réagi de façon différente. Ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Puis comme de fait, ben il y a des bons points, il y a des moins bons points. Puis c'était juste vraiment intéressant d'essayer de faire la différence. Alors qu'un jeu comme God of War 3, qui a fait le consensus, qui est un des jeux les mieux classés de l'année, ben je l'ai fait, c'était appréciable. Il répondait à toutes les cases qui sont censées être remplies.
Mais, tout était coché.
C'est ça, mais ça m'a laissé un peu froid, puis ça n'a pas été plus mémorable que ça. J'étais correct.
Il n'y avait pas d'élément de surprise.
C'était parfait, entre guillemets, mais ça n'a pas été au-delà de ça, tu sais.
Ça, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en tant que gamer, on ne recherche peut-être pas la perfection.
Exactement, on cherche une identité, en fait. Comme tantôt, Gab, il parlait de Resident Evil.
C'est comme en amour, là.
C'est ça. On cherche
dans
des personnalités.
Jeux. Comme en amour.
On cherche des jeux qui ont de la personnalité, tu sais.
Ouais, je veux dire, ça peut être. Peut avoir des bouts complètement brisés, mais que le jeu, en global, il te donne des affaires que tu trouveras jamais ailleurs.
Quelque chose de mémorable, n'importe quoi.
Polynomial, tu sais, il y a des choses de brisées, mais il y a des choses que tu trouveras pas en allant ailleurs, jamais.
Ouais. J'ai chialé contre tous les points négatifs, puis je suis tout en train de retourner. Puis d'y retourner, puis d'y retourner.
Puis c'est la même chose avec Sonic, tu vois, Narf?
Ce sera sûrement pas la même chose avec Dinner Date, par contre. Je l'ai fait deux fois, puis c'est correct.
Ouais, je comprends, mais ton expérience, ça change pas, tu sais.
C'est ça.
Ça serait comme vouloir réécouter un film deux fois back-à-back.
Back-à-back, oui.
Puis j'ai déjà fait, hein, avec Brick.
Ouais, ben je l'ai déjà fait avec une couple d'affaires, là.
Moi, mes sœurs, ils écoutaient le tout pour le tout à journée longue pendant plusieurs semaines, OK?
Ouais, mais
le seul point positif, tout est permis.
La
seul
conscience
point
critique
positif
est
de
pas...
ce film-là, c'était Kirsten Dunst. Honnêtement, là.
À cet âge-là, la conscience critique n'est pas exactement de la même teneur que quand on est rendu passé à la vingtaine.
C'est sûr.
Ça dépend des gens.
Bon. En terminant, pensez-vous que notre podcast agit favorablement du côté de la critique?
Moi, je trouve qu'on ressemble aux nouvelles de côté à coup, là. Tu sais, les nouvelles critiques, là.
Ouais. Leur nouvelle façon de faire les critiques.
Un peu,
ouais, ouais. J'avoue que c'est intriguant.
On dit pas vraiment à qui ça s'adresse la majorité du temps, mais je trouve que ça le couvre quand même, là.
Ben, ça s'adresse à nous.
Ah, ben oui.
Puis, juste pour finir, je pense que je vais terminer avec ça. Je lis presque plus de reviews, moi. Mm-hmm. Tout ce que je fais, c'est écouter des podcasts. Parce que je trouve que les podcasts, justement, vont avoir l'élément humain, l'élément de conversation, que le texte écrit est plus comme un monologue. La reviews vocale dans un podcast, mm-hmm. une conversation entre plusieurs gens. Puis c'est souvent là qu'ils vont sortir comme les vraies affaires importantes. Même souvent, ils ont fait la reviews pour l'article d'abord, puis après ça, ils vont la répéter dans le fond dans le podcast, mais genre, ils vont vraiment mettre l'accent sur les points importants, puis ils vont dire « Ah, j'y ai donné une note pas très bonne, mais le jeu, il était vraiment le fun, mais il était pas bon, mais il était le fun. »
Ça... Il y a maintenant cette nuance-là qui est plus fréquente.
Les jeux qui sont plus le fun, qui sont bons.
Ben,
ouais.
Pas juste les ça, là, je parle plus... de toutes sortes de nuances de même. Là.
Moi, j'ai vu aussi des reviews sur papier qui étaient en fait des discussions, comme des chatlogs ou quelque chose comme ça, où ils s'étaient dit on va faire la critique à deux ou à trois. Puis ouais. Tu vois, ils s'entrecoupent et ils ajoutent des affaires.
Un de mes sites préférés, c'est Rock Paper Shotgun. C'est un site britannique. Puis souvent, quand les gros jeux qu'ils attendent depuis très longtemps, depuis, mettons, 2 ans, sortent, ils vont faire littéralement une critique à 4, comme une conversation littérale, transcrite. Puis c'est toujours vraiment le fun à lire.
Ouais, moi, je pense qu'il faudrait demander, oui? Faudrait demander à notre à nos auditeurs de critiquer notre podcast.
Ouais.
Ouais.
On pourrait être surpris. Ouais.
Moi, je pense qu'ils vont utiliser la longueur comme critère.
Je pense que beaucoup.
Je suis pas sûr, mais.
Ils pourront pas dire qu'il est pas assez long.
Non, vraiment.
Non, je pense pas. Surtout pour le prix. Hein?
J'espère qu'ils diront pas qu'il est pas intéressant. Parce que moi, à soir, je les ai trouvés bien intéressants, les gars. Félicitations.
Ben merci, toi aussi t'as fait la bonne job.
Brofist!
Tu nous as donné le goût de jouer à Halo, même à ceux qui aiment pas ça.
Ouais.
Ouais, c'est assez incroyable.
Donc, c'est la fin de l'émission. Alors, on veut, comme on a dit, avoir vos commentaires, vos suggestions, puis genre, faites une critique des podcasts de On a juste une vie.
Donnez-nous une note, là, sur le son, sur les graphiques.
Ouais. Ouais, les graphiques, on
mes
va avoir une super bonne note.
Le replay
value.
Ah oui,
c'est vrai, on a des images. Hein? J'allais dire, c'est de l'audio seulement, on n'a pas d'images. Mais ouais, les super belles images que Blum nous fait.
Avez-vous
qu'est-ce
envie?
Qu'est-ce qui arrive avec la tempête, là?
Ah, ben là, vous allez voir, mais je vous promets qu'il va y avoir des arbres arrachés.
OK, cool. Qu'est-ce que t'allais dire, Louis?
J'allais dire, avez-vous envie de réécouter notre podcast 3 fois pour voir comment il change son déroulement? Puis,
je pense pas qu'il change.
Puis approcher les affrontements de façon différente parce que les tableaux sont super flexibles.
Ouais, ben c'est ça, on a caché des easter eggs dans le podcast, puis tous ceux qui vont trouver les 3 easter eggs, ben vous gagnez un t-shirt.
Il faut se mettre à imprimer des t-shirts.
Oh, okay. Malade! Des t-shirts, on a juste une vie. J'en veux un.
OK. Donc, pour nous envoyer toutes ces belles critiques-là et vos notes, vous pouvez faire ça dans les commentaires sur le blog à onajustunevie.ca. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et Facebook à twitter.onajustunevie.ca ou Facebook à... twitter.onajustunevie ou facebook.onajustunevie.ca. Bref. Ah, par courriel aussi. Hey, je suis tout mêlé à ce soir. onajustunevie@gmail.com et notre super répondeur 514-90-PIRATE 514-907-4728. C'est maintenant la fin de l'émission.
Enfin.
Et puis, Ouais, enfin. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les prochaines semaines? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, je sais que j'ai une couple de jeux d'iPhone que je veux avoir des petites choses à dire, là, que je veux évaluer un peu. Vous, qu'est-ce que ça vous tente de parler?
Vous allez entendre parler de Cooking Mama la semaine prochaine.
All right.
Pour vrai?
Oui, que j'adore. Entre guillemets.
OK. OK.
On t'entend ça.
Et de,
ma curiosité a
été Megaman, éventuellement.
Nice. Moi, la semaine prochaine, je vais revenir sur Batman Arkham Asylum ou ne pas être là et être en rush de fin de session et paniquer et probablement me...
Et t'arracher tes cheveux.
Bonne panique.
Ouais.
Bonne panique. Ben, Gab, t'allais dire de quoi?
Ouais, j'ai présentement ma possession Black Ops. Je vais faire la campagne en français. Oh!
Et, ce serait un bon sujet sur la langue pour une prochaine fois.
Premièrement, je l'ai pas acheté. Ouais, la langue, ça pourrait être une bonne affaire. Je l'ai pas acheté, je l'ai loué. Puis au Vidéotron, à côté de chez nous, les jeux qui sont juste en français, des fois, tu sais, comme il y a des copies en français, il y a des copies en anglais, ben ils pognent juste les copies en français. Je suis pogné de jouer à la campagne en français seulement. Mais je vais quand même essayer de soutirer des informations intéressantes sur la conception de l'histoire d'après Treyarch.
J'ai une remarque à faire.
Puis donner une note sur 10.
Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où ce que le premier tableau de Call of Duty Black Ops se joue tout seul.
Ouais, j'ai vu.
En tout cas, tu nous en parleras.
Ouais. Et éventuellement, s'il y a des auditeurs qui veulent en entendre parler, je vais parler des outfits, qui se trouvent à avoir aussi une conception de l'histoire assez intéressante. je suis sérieux, là. C'est assez fucké.
Puis par histoire, tu parles de histoire avec un grand H, là. Hein?
Ouais, l'histoire, là. Des outfits, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais t'es pas vraiment sûr, à un moment donné.
Mm-hmm. OK.
Et, aussi, éventuellement, quand je vais avoir passé au-dessus de 80 heures dessus, je vais parler de Mount & Blade, mais ça reste pour plus tard.
Alors, si vous voulez entendre la très importante critique de The Outfit par Gabriel, les filles, vous savez quoi faire.
Oui, les filles, savoir. Surtout.
Ouais. Ben oui, Gab, il parle juste aux filles.
Ouais.
Puis à nous. Qu'est-ce que ça dit sur nous?
Ouais,
merci, Narf.
Donc, on termine ça maintenant en disant que le podcast dont on a juste une vie est une production de la Brigade SNW et que notre ligne de téléphone est une gracieuseté de Babytel. Au nom de toute l'équipe... Ah, j'ai pas écrit les noms! au nom de toute l'équipe, Louis, Gabriel et Blob aux bananes et moi-même, Narf. Profitez de vos bonus parce qu'on a juste une vie!
Yeah, on a juste une vie!
C'est quoi l'idée de faire? Vous avez fait ça la semaine passée. J'étais là, je le coupe-tu ou je le laisse?
C'est ton choix, man. C'est toi le monteur.
Tu fais ce que tu veux, babe.
écoutez le podcast 1000 de On a juste une vie. C'était-tu bon, ça?
C'était...
Ça sonnait un peu... Il est 2h07 du matin et vous écoutez Radio Jodassin.
J'ai envie de le refaire de même.
J'avais l'impression que de m'être trompé, d'avoir comme changé de poste puis de m'être ramassé sur une station zen. Mais ça a l'air que j'étais encore à la bonne place.
Je suis Pierre-Éric Frigo.
La semaine prochaine.
Non, moi, je touche pas à ça, man.
Non, ben, j'aime mieux pas, moi non plus. Moi, je prends des gourous, en fait. C'est avec du Jinko Biloba. La première fois que j'ai entendu ce nom-là, je pensais que c'était quelqu'un qui essayait de dire, genre, Jingle Bells, mais qui était pas capable.
Ah, man, des fois, j'entends Narf parler, pis c'est-tu que c'est un hater, ce gars-là?
Ouais, ouais.
Ben...
Son opinion, il a de la valeur.
Arrêté sur bien des affaires, mais on l'aime quand même.
Comme j'ai dit, son opinion a beaucoup de valeur en même temps.
Oui, c'est ça, parce que...
Il haït pas pour rien, mais quand il haït, tu pourras pas rien faire.
Ah, mais écoute, c'est Sonic to Battle, c'est une bouette.
Mais c'est full le fun.
Je trouve juste ça drôle qu'on ait passé comme, genre, 20 minutes à en parler, puis que là, ben, dans le fond, ça se résume à ça, puis qu'il y a fuck all qui a changé. Je trouve ça très drôle.
Non, mais
nos auditeurs vont savoir,
c'est l'évidence, c'est... man! Ta gueule! Pourquoi? T'essayes!
Ben, on entend quelque chose, Louis. C'est parce que la première fois, genre, quand on l'a fait, genre, j'étais là, c'est fini, fait que là, ben, jouer beaucoup. Puis là, Mathieu, il a fait, parce qu'on a juste une vie!
Bon, ben, c'est bon, ça, il a trouvé.
La version complète que j'aimais particulièrement, là, c'était jouer beaucoup parce que c'est bien. Ah,
oui!
Parce qu'on a juste une vie aussi!
Oui, c'est ça!
Ouais, c'est ça! Ouais. C'est ça. On fait un clap de fin?
Oui.
Ouais.
1, 2, 3.
Là, on stoppe l'enregistrement.
Stoppe l'enregistrement. Ouais.